Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Et voilà les amis, on est content de vous retrouver. Disons, ça fait déjà un moment qu'on n'était pas autour de la même table, bien sûr. C'est l'événement Radio Monaco avec Jungle Fight. La première émission de radio de lutte contre le sida. T'étais pas là au début, Franck, toi?
Non, pas tout à fait. Moi, je suis là depuis 5 ans.
Depuis 5 ans, c'est tout? Normal, oui. Moi, j'ai pas envie de t'en penser. T'as parlé 3 fois.
Oui, bah.
Comment ça se fait?
Et bizarre. Pourtant, j'ai vieilli.
Oui, t'as pas mal vie. Ok, Franck, avec nous, une sommité du monde médical, le docteur Bruno Taillant. Salut, mon Bruno, ça va?
Salut, Malher, c'est gentil. Hein.
Si je suis gentil, je raconte n'importe quoi, je te
vois. Ouais, mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir.
Ça fait plaisir, ouais. Bah, ouais.
T'es pas obligé.
Faut avoir le portable dans.
T'es pas obligé.
Il faut avoir ton portable dans la poche, on sait jamais ce qui peut arriver.
D'ailleurs, on va le dire.
On va le donner tout à l'heure.
Voilà.
Et puis, vous gagnerez un grip avec. C'est bien. Avec nous, Hervé Asbach. Salut, Hervé.
Bonjour, Malher.
Coordinateur à Fightez, une autre sommité encore.
Ah, hein. J'ai peur que tu ne dises rien, merci.
J'ai que des sommités ici. Et puis, Franck Herman. Salut, mon petit Franck.
Bonjour
toujours.
À tous.
Dis donc, il y a eu des progrès en 7 ans, ça a pas mal bougé quand même. Je parle au niveau du sida. On a...
Il y a eu des progrès, il y a toujours 6000 nouvelles contaminations par an.
Alors voilà, en France.
En France, ouais.
6000 quand même, ça bouge pas.
Un tiers d'homosexuels, un tiers d'hétérosexuels, un tiers dans des milieux défavorisés, donc ça a pas tellement bougé. La stigmatisation, le rejet, ça a pas bougé du tout.
Ça bouge pas du tout.
Par contre, effectivement, il y a eu beaucoup de progrès dans la prise en charge thérapeutique et surtout et encore dans la prévention dont on reparlera sûrement tout à l'heure avec les autotests
qui viennent d'arriver en France.
Voilà. Ouais. Sur le plan thérapeutique, il y a d'énormes progrès avec des nouveaux traitements, des nouveaux antirétroviraux plus efficaces, moins toxiques, plus simples à prendre. Ça, c'est vrai. Mais par contre, dans tout ce qui est nouvelle contamination et prévention, il y a encore beaucoup à faire.
Voilà. Tu parlais du Truvada, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure, c'est vrai, principalement aux États-Unis, les gens qui veulent faire la fête prennent un petit cachet de Truvada, ce qui te protège.
Sincèrement, je pense que, bon, que ça soit aux États-Unis ou en France, nous, on n'a jamais vu autant d'accidents d'exposition à l'heure actuelle. Alors, c'est vrai qu'il y a l'avantage, c'est qu'à l'heure actuelle, il semble que l'information se fasse et qu'il y a de plus en plus de gens qui consultent dans des milieux d'urgence ou équivalents dans des suites de rapports à risque. Bon, je ne sais pas si c'est un progrès, mais en tout cas, c'est bien. On n'a jamais donné autant de trithérapie post-exposition. Par contre, pour le
tu veux dire par là,
les gens mettent pas de capote et puis les gens, par contre, ce qui est nouveau, c'est que les gens ne mettent pas de capote, mais dès qu'ils ont fini, ils ont peur et ils consultent.
Ce qui est une avancée.
C'est une avancée. Peut-être que dans quelques temps, ils auront peur avant.
Avant, ce serait mieux.
Voilà, parce que ça pose un problème. Hein. Et oui, le Truvada, si on en parle, on en reparle. Effectivement,
il n'est pas vendu en France encore.
Il n'est pas encore vendu en France.
Il va l'être.
Il n'est pas encore autorisé en France, puis il va l'être sûrement. Mais de toute façon, en France, qu'on avait dit la dernière fois, beaucoup, notamment d'homosexuels, parce que c'est beaucoup diffusé dans le milieu homosexuel, allèguent d'accidents d'exposition, se font prescrire des trithérapies post-exposition dans les hôpitaux pour s'en servir après en préventif. Mais par contre, aux États-Unis, ça marche l'enfer, puisque moi j'ai vu l'autre jour un patient qui revenait des États-Unis et c'est quasiment le buzz. Hein.
Mais c'est que sous essai, parce que les médecins maintenant ils veulent plus les prescrire, ils peuvent pas les prescrire.
Ah, pour l'instant c'est pas autorisé en France, mais par contre aux États-Unis c'est légalisé.
Oui, mais en France ils peuvent pas.
Non, par contre les médecins prescrivent du Truvada en post-exposition. Pour des gens qui allèguent une conduite à risque.
Oui.
Et si cette conduite à risque n'est pas avérée, tu peux avoir ton petit stock de Truvada et t'en servir en préventif, quoi.
Ça coûte cher?
Le Truvada, ça coûte, ça doit coûter 600 euros par mois.
600 euros?
C'est pas un produit que je prescris beaucoup, donc je peux me tromper sur le prix, mais ça doit être entre 500 et 600 euros.
Alors, c'est quoi? C'est le cachet? C'est à combien le cachet?
C'est une combinaison de deux produits. Mais le problème, quand on est séropositif, on peut accepter éventuellement ce genre de traitement et la toxicité éventuelle, puisque c'est un produit qui potentiellement peut être toxique au niveau osseux, au niveau rénal en particulier.
Ouais.
Après, quand on est soi-disant un sujet sain, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de santé particulier, s'exposer très jeune à des médicaments dont la toxicité immédiate et à long terme est possible et probable, je ne sais pas si c'est une avancée, sincèrement.
Une capote, c'est 20 centimes d'euros.
Ouais, et puis surtout, ça prévient pas les autres infections sexuellement transmissibles, ça prévient pas les autres problèmes. On l'a dit, on l'a redit, il y a des épidémies de lymphogranulomatose, c'est-à-dire des infections à chlamydier, il y a des épidémies de syphilis, il y a des épidémies de gonococcie, et tout ça peut entraîner des complications immédiates et à long terme, mortelles ou stérilité ou tout ce que tu veux. Donc, sincèrement, ça pose un vrai problème, et la prévention, ça passe par le comportement, et je pense pas que le comportement, ça soit prendre du Truvada, sincèrement.
Ouais, tout à fait.
Et alors, Bruno, est-ce qu'on n'a pas atteint un seuil au niveau de la communication? Parce que toutes ces choses-là, vous nous le dites à nous ici sur Radio Monaco, mais on n'entend parler nulle part.
Eh oui. Non, mais je pense.
Il y a plus de prévention.
Comme on disait avec Hervé tout à l'heure, c'est que l'information et la communication, on en fait partie depuis 7 ans, a quand même cet intérêt que les gens consultent quand même maintenant beaucoup plus. Les gens se font dépister beaucoup plus, parce qu'il faut savoir quand même qu'en France, on est le premier pays en Europe au niveau du nombre de dépistages annuels. Or, ça rapporte rien, parce qu'on fait des dépistages n'importe comment.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit, oui, c'est gratuit plus ou moins. Les centres de dépistage anonymes gratuits, c'est gratuit.
Ouais.
Et on n'a jamais fait autant de tests, mais malheureusement, la plupart de ces tests sont négatifs, ce qui veut dire que la prévention dont fait partie le dépistage, il faut faire des dépistages ciblés. C'est-à-dire, il faut que les gens qui ont des rapports à risque, il faut que les gens qui ont plus d'un partenaire dans l'année, il faut que les gens dans des situations bien particulières se font des... Il faudrait de toute façon que toute la population fasse au moins une fois dans sa vie un dépistage. Et après, en fonction du comportement, en fonction de la situation, répéter ce dépistage, soit de façon annuelle si on a un comportement à risque, soit lors d'événements grossesse ou équivalents. Mais en tout cas, on n'y arrivera que si on se fait dépister et si on se fait prendre en charge, ça c'est sûr.
Ouais, moi je pense que par rapport à la question de Franck, c'est pas forcément connu dans le grand public et c'est pas forcément nécessaire. On parlait du Truvada, pas pour le grand public, c'est connu dans les milieux justement où il y a des prises de risque. Mmh. Et là, ces personnes qui ont cette information sont demandeurs de ce type de produits. Après, est-ce que c'est justement justifié ou pas ? Mais dans les réseaux sociaux de ces milieux-là, enfin dans la prévention, on voit qu'il y a une demande de ce genre de protection.
Ok, les amis, on va en reparler. Surtout qu'ils y sont tous là. Est-ce que vous êtes là, les élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco ? Vous êtes là ?
Oui,
ouais. Oh là, on s'est fait blard, là, on sent les vacances, là, ça se relâche un peu, là.
C'est la rentrée.
C'est la rentrée. On accueille Mélanie. Salut Mélanie, tu vas bien?
Je vais
bien et vous? Mélanie, qu'est-ce que tu veux savoir?
Est-ce que le nouveau test de dépistage vendu en pharmacie est aussi en vente à Monaco?
L'autotest.
S'il l'est pas, il devrait l'être, mais il est.
Oui, il est de toute façon possible d'être mis en vente à Monaco. Donc il faut faire le tour des pharmacies. Je sais qu'il y a certaines pharmacies qui l'ont. Après, s'ils ne l'ont pas, ils peuvent tout à fait le commander et ils l'ont comme un médicament dans la demi-journée ou le lendemain.
Entre 25 et 30 euros,
oui.
Bon.
On va reparler du test de dépistage sûrement, mais moi je vous engage, surtout à votre âge et quand on est à l'aise avec le dépistage et sa sexualité, d'aller dans des centres de dépistage, au moins c'est gratuit, au moins vous avez une information et vous entourez le dépistage de ce qu'on appelle le counseling, c'est-à-dire d'une information. L'autodépistage, ces tests-là s'adressent, à mon avis, maintenant ça peut se discuter, s'adressent essentiellement à des gens qui n'ont pas accès ou qui ne vont pas se faire dépister, c'est-à-dire j'espère une tranche infime de la population à risque. Je pense que pour des jeunes comme vous, sincèrement, sauf si vous avez un problème ou si vous, pas honte, mais enfin, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et si vous ne voulez pas qu'on voit dans un centre de dépistage, ce qui serait dommage, vous avez beaucoup mieux à faire à aller dans un centre de dépistage, c'est gratuit.
Ou lors d'une journée,
mais en tout cas, un dépistage qui va être entouré par des professionnels, même si ces autotests, vous n'êtes pas laissé à l'abandon, puisque vous avez ici d'infoservices qui répondra 24 heures sur 24, mais je ne suis pas persuadé que vous fassiez partie du profil de gens qui doivent bénéficier des autotests, même si les autotests...
Il y a un profil pour ça?
Je pense que le profil, c'est les gens qui, de toute façon, ne se font jamais dépister et qui pourraient éventuellement, avoir envie de se faire dépister.
Ouais.
C'est quand même 25 à 30 euros en fonction des tests. Pour des jeunes, c'est pas donné, c'est pas pris en charge par la Sécurité sociale.
C'est fiable à 100%?
Non, comme tous les tests. C'est-à-dire que de toute façon, ces tests... Le problème de ces autotests, c'est-à-dire ce qu'il est dit par la Haute Autorité de Santé, c'est que ces autotests ne sont fiables en grande partie qu'après 3 mois de prise de risque. C'est-à-dire c'est très long, 3 mois. Par les sérologies classiques, c'est-à-dire pas les tests classiques, par les prises de sang, on peut quasiment être sûr qu'il n'y a pas de problème au bout de 15 jours et certains au bout d'un mois à 6 semaines. Donc c'est vrai que c'est des choses qui doivent être encadrées. C'est-à-dire si vous êtes sorti en boîte de nuit ce week-end, que vous dites, mince, j'ai fait peut-être une ânerie, vous faites un autotest, ça sert strictement à rien. Voilà. Mais un dépistage sert à rien non plus.
Elle demandait juste s'il y en avait en pharmacie.
Ouais. Donc voilà, mais...
Pauvre Mélanie, t'as vu ça? Il est en forme, Taillon, ce soir. Hein,
je suis pas en forme parce que moi, j'étais initialement contre les autotests et je pense que maintenant, je suis pour les autotests parce que de toute façon, je pense que même une seule personne dépistée, c'est bien. Voilà. Après, bon, faut faire attention à ça.
On va en reparler.
On va en reparler. Mélanie, t'as une autre question?
Est-ce que ce sont les mêmes tests que les TROD?
C'est le test rapide à orientation de diagnostic. Oui, c'est le même principe. Après, comme l'a dit le docteur Taillant, il n'y a effectivement pas de personne autour pour encadrer le dépistage. Mais autrement, c'est le même principe. Mais on le reverra après sur les étapes.
Après, il faudra expliquer pourquoi un TROD vaut quelques euros et un test de dépistage à la maison vaut 30 euros. Pourquoi il y a eu un saut de 1 à 6, je ne sais pas.
Voilà, Mélanie, on a répondu à toutes les questions. Bon, allez, rentre dans ta chambre tout de suite.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Yeah.
Ça va Stéphanie, ça va Altès, ça va bien.
Ouais, et toi Malheur, ça va.
Vous avez passé des bonnes vacances, tout va bien. Je sais qu'il y a eu le Circus d'Inner-Show.
Oui.
Je me suis vraiment poilé là. Bah, c'était génial, voilà.
Si c'est pour ça.
Ouais, c'est fait pour ça. On s'est bien amusé. Voilà, merci Stéphanie.
Donc, alors, pas en vacances.
Elle est pas. Vous êtes pas partie après un petit
non,
peu.
Non.
Oh bah alors. Non. Bon, faut nous demander. On a des petits coins, nous. On connaît des trucs sympas.
Hein. Non, je n'irai pas en Thaïlande avec toi.
Bon bah voilà, bah ça y est, ça commence. C'est ta faute, c'est toi qui as balancé tout. Hein. Tu vas voir. Ok les amis, on revient. On a parlé d'autotest, on va y revenir tout à l'heure, bien sûr. On a Jessica du lycée technique et hôtelier qui est avec nous.
Oui,
salut Jessica,
moi.
Tu vas bien?
Salut, oui, ça va, merci.
Qu'est-ce que tu veux t'avoir?
Alors je voudrais savoir, est-ce que Fatex Monaco proposera de nouveau un test in the city?
Bien sûr, il est déjà programmé pour le mercredi 25 novembre.
25, où ça, quoi, où ça?
On n'a encore pas les...
C'est pas l'époque de la plage.
D'accord.
Si je peux me permettre.
Alors, pas la plage.
On sera soit sur la promenade d'Henri II, comme d'habitude, soit sur un autre lieu, mais pour l'instant, nous ne pouvons encore pas en dire plus.
Donc,
mais de toute façon, il y aura le test in the city, c'est sûr. Voilà. Et avec les anges gardiens. Et Zaza.
Et Zaza.
Et Stéphanie. Et Bruno. Non, Bruno, non.
Si, il passe
pas toujours là.
Si, il vient, Bruno. Ouais.
Bruno,
okay,
il
vient,
Bruno. Présent.
Ok, Jessica.
Alors, j'ai une autre question encore. Dans le cas où quelqu'un fait un autotest et qu'il est positif, est-ce qu'en principauté, tous les médecins généralistes sont aptes à les recevoir ou est-ce qu'il faut un spécialiste?
Oh là, bonne question.
Question complexe.
Eh ben voilà, ça y est.
Sincèrement, je pense que tous les médecins, à l'heure actuelle, ne sont pas aptes à prendre en charge, ne serait-ce que l'annonce de la prise en charge de la séropositivité. De toute façon, la prise en charge initiale d'une séropositivité, c'est affaire de spécialistes, parce qu'il y a des choses à faire. D'abord, la première des choses à faire, c'est de confirmer le test, parce qu'il faut savoir quand même que ce test peut être faussement positif ou ce test peut être faussement négatif. Donc un test positif n'a qu'une valeur indicative et en aucune façon ne veut dire qu'on est séropositif. Donc il faut le confirmer par un test classique et effectivement, à l'hôpital ou par un médecin spécialiste, on fera un certain nombre de tests qui vont permettre d'affirmer cela et de déduire un certain nombre d'éléments qui permettront la prise en charge. Voilà. Après, il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont très bien et très compétents en principauté de Monaco, mais il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas envie de s'occuper de ce genre de pathologie, pas par stigmatisation ou par rejet, parce que c'est quand même quelque chose au départ qui est très chronophage, qui prend beaucoup de temps et qui a... Voilà, chacun doit faire ce qu'il sait faire.
On peut aller à FightEdz, tout simplement.
Oui, bien sûr, mais pour la prise en charge... De toute façon, à FightEdz, nous ne pourrons pas faire le test sanguin.
Donner des conseils, déjà.
Oui, bien sûr, pour parler, pour accompagner la personne, pour peut-être justement l'accompagner vers le spécialiste à l'hôpital, en l'occurrence le docteur Taillant, c'est possible. Mais nous ne sommes qu'un passage. L'urgence est d'aller soit au centre de dépistage, soit directement au service...
Monaco est tout à fait structuré pour prendre en charge les patients séropositifs sur le plan médical. Il n'y a aucun problème, que ce soit pour le diagnostic, que ce soit pour les bilans complémentaires, que ce soit pour la prise en charge thérapeutique. Donc il n'y a vraiment aucun problème, que ce soit Monaco, limitrophe ou peut venir à Monaco, il n'y a aucun problème.
Et comment trouver exactement en fait ces médecins spécialistes?
Ben, c'est une spécialité qui est très hospitalière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecin sidénologue, médecin qui s'occupe du sida, installé en ville. Alors il y a quelques généralistes, parce qu'il y a des réseaux, hein, il y a des réseaux entre la ville et l'hôpital, donc il y a quelques médecins généralistes qui s'intéressent à ça et qui ont la capacité de prendre en charge, mais c'est pas tous les généralistes. Dans le réseau ville-hôpital, on peut avoir l'adresse des généralistes sur internet, mais c'est vrai qu'au départ, j'engage sincèrement les gens à consulter, soit à l'Archer, soit à Monaco, soit à Princesse-Grâce, Antibes, Cannes, Grasse, toutes les villes ayant un centre hospitalier sont aptes à, dans la région, à prendre en charge des séropositifs.
Mais comme tout à l'heure tu l'as dit, le numéro vert de SIDA Info Service saura répondre aussi pour Monaco et saura donner justement les coordonnées de là où il faut appeler, quel service et quel...
Quand on se découvre séropositif, il y a une grosse émotion quand même, il y a une grosse angoisse, il y a beaucoup de problèmes. Donc j'engage quand même les gens à voir des gens sérieux qui vont pouvoir vous informer sérieusement et vous orienter, parce que c'est pas évident, hein, on en parlait l'autre jour, entre annoncer une séropositivité et annoncer un cancer, c'est toujours douloureux, mais l'émotion, l'angoisse n'est pas la même. Et l'impression de solitude n'est pas la même, l'impression de rejet n'est pas la même, donc tout ça c'est très compliqué. Donc sincèrement... C'est affaire de professionnels et c'est affaire de gens compétents. Après,
tu m'appelles Jessica, on va te trouver quelqu'un de bien.
Oui, Malheur, il y a tous les numéros dans son portable.
Ah, tout, ça n'arrête pas de sonner toute la journée. Infernal.
Par rapport à la question que tu posais tout à l'heure sur FightEdz Monaco et ce que nous disions, ou le docteur disait tout à l'heure, qu'il y avait de plus en plus de prise de conscience par rapport aux accidents à risque, il y a une semaine ou 10 jours, je ne sais plus, quelqu'un est venu nous a appelé et passé à l'association un monsieur qui avait conscience d'avoir pris un risque la veille et qui nous a contacté, nous, Faïtès Monaco, puisqu'il ne savait pas où aller et vraiment à qui en parler. Donc le lien a tout de suite été fait avec justement le docteur Taillant. Il est passé aux urgences et le docteur Taillant l'a vu. Donc la prise en charge s'est faite très rapidement sur une prise de risque.
Ça reste anonyme, mais c'est pour dire quand même que l'alcool peut faire des ravages, parce que ce monsieur, en l'occurrence, était pas du tout certain que c'était un homme ou une femme.
Pardon.
Non, mais ce qui veut dire que les soirées arrosées.
Il y a des hommes très beaux.
Oui, mais je dis pas le contraire, mais ça, c'est pas un problème. On est ouvert à tout, à Jungle Fight et à Fightheads. Mais ce qui veut dire quand même que l'alcool ou les drogues viennent modifier le jugement et font prendre des risques supplémentaires. Parce que bon, c'est quand même.
Et sans être sûr d'avoir utilisé une capote.
Oui, en étant sûr de rien, en te réveillant le matin, en disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, où je suis, et puis voilà. Alors, t'as peur, tu consultes.
Ça t'est arrivé, ça, Bruno, de temps en temps?
De
savoir où t'es.
C'est une question indiscrète, maintenant.
Ouais. Oh, ben, c'est toujours indiscret, moi, tu penses bien. C'est pour donner un peu de piment à l'émission, sinon.
On te demandera pas, ça
sera. Alors, j'ai l'avantage, je me consulte tout seul.
Il se consulte tout seul, voilà. C'est bien. On accueille l'excellent, Florent, ça va, mon cher ami?
Bonjour.
Florent, c'est la première fois que tu passes ici?
Oui, un peu stressé, mais c'est pas grave.
Bah ouais, j'ai vu ça. T'es au lycée technique et hôtelier?
Oui.
Ça va, ça se passe bien là-bas?
Très bien, je commence avec 18 de moyenne, ça va.
18 de moyenne? Oui. Oh là, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux savoir, Florent?
Eh ben, tout d'abord, en fait, avant d'aller à la radio, moi, je croyais faire la météo. Mais en fait, non. Donc, je m'entraînais chez moi à faire...
Faire la météo, je comprends
oui,
pas.
Oui, parce que je voulais faire la météo. Donc, ouais, c'est un peu bizarre.
C'est Zaza qui s'est trompée, donc
oui.
Qui s'est
fait
faire la météo.
C'est vrai. Elle est du secouré, Zaza.
Elle est marrante, cette Zaza.
Ah, oui.
Elle fait toujours des blagues. Elle est pleine de surprises.
Tu nous as envoyé le fils d'Evelyne Delia, Zaza. Qu'est-ce que t'as fait encore?
Le petit-fils, non?
Ça, c'est pas très gentil.
C'est pas gentil pour Emeline.
Mais c'est vrai.
Florent, est-ce que tu... Ou non, on va peut-être faire le flash juste avant. Hein, on va faire les informations, puis on te récupère. Tu restes avec nous, Florent?
Oui, bien sûr.
Rassure-toi, tout va bien.
Oui,
ne
oui.
T'inquiète pas. Reste avec nous, les amis. C'est Jungle Fight sur Radio Monaco. Il est 17h30.
Jungle Fight sur Radio Monaco.
Tiens, j'ai une petite question à Stéphanie.
Tiens,
pour changer un peu. Le monde est instable, compliqué, voire dangereux. En ce moment, on le voit aux informations. Voilà, ça commence très mal. Est-ce que vous n'avez pas peur que la lutte contre le sida passe au second plan, voire au troisième, au quatrième, ou qu'on n'en parle même plus du tout?
C'est déjà le cas maintenant, donc parce que ça pourrait changer.
Ça ne changera pas, on n'en parlera plus. Vous êtes inquiète ou quoi?
Non, mais on s'habitue à tout. Hein. De toute façon,
on continue, on fait
ce qu'on peut. On fait des brèches, on informe, on est là pour soutenir les gens. Et j'y peux rien, moi, si les gens n'en parlent pas. Je pense que c'est la faute des gouvernements qui
Ils ne se bougent pas assez, là.
Non, mais c'est la politique de l'autruche. Ils veulent pas voir ça. Donc, c'est pas leur problème, mais c'est leur problème, quoi. Parce que ça touche vraiment le monde entier. Je veux dire, et en Europe, je pense qu'il y a vraiment un relâchement, mais alors complet, même au niveau de l'information, au niveau du VIH. Je suis sûre que vous interrogez des gens n'importe où en France, Isa, mais moi je crois que c'était fini, on n'en parle plus.
Surtout chez les jeunes.
C'est pas ça. Moi, chez les jeunes, je pense que c'est une tranche d'âge aussi qui se sent pas concernée du tout, justement, qui dit oui, c'est les jeunes. Mais non. Le sida est toujours autant là. Bon, il y a d'autres moyens maintenant de le combattre. Mais au niveau de l'information et d'en parler et de mettre au courant les gens, je pense que à Monaco, encore une fois, je le dis à chaque fois, on est un exemple parce que pour un petit pays, on fait beaucoup plus que des gros pays pour la lutte contre le sida. Et qu'avoir les jeunes maintenant, en venant à cette émission et avec le groupe de Zaza et tout ça, les jeunes, ils sont informés, ils ont des réponses à leurs questions. Et ils peuvent eux-mêmes, après, s'il y a d'autres jeunes qui viennent les voir, répondre aux questions. Et entre jeunes, ils parlent de ça et ça les préoccupe. Et ils sont au moins informés et bien informés. Et je crois que c'est ça qui est important. Et c'est là où je suis fière de l'action de Fightez à ce niveau-là, parce que c'est eux l'avenir. Du combat contre le VIH et de l'information, donc c'est bien.
Je vous tourne vers Franck Herman juste avant Hervé. Franck, il y a un patron de fonds d'investissement qui a agité les médias outre-Atlantique. Il a racheté une entreprise pharmaceutique, il a multiplié par 10 le prix des médicaments utiles aux séropositifs.
Ah, effectivement.
Quel escroc.
Martin Shkreli manque un petit peu d'élégance, Mahler. Sa nouvelle acquisition pourrait lui rapporter gros si ses clients veulent encore l'acheter. Le médicament s'appelle Daraprim. Il est efficace pour lutter contre la toxoplasmose. C'est une infection parasitaire qui touche en général 30% de la population mondiale. virale, mais surtout dangereuse pour les porteurs du VIH au système immunitaire affaibli. Alors, ce fait dont une clientèle importante, l'homme d'affaires a décidé de revoir sa marche à la hausse, ouais, en passant le produit de $13.50 à $750. Vous faites un petit calcul, c'est 54 fois plus. Pourquoi pas? Alors, l'information même fait réagir, figurez-vous, Hillary Clinton, candidate à la candidature démocrate à la présidentielle américaine, qui a promis de légiférer si elle est élue. Réponse de Martine Shkreli, les médias me pointent du doigt, alors j'en pointe un sur eux, et ce n'est ni l'index ni l'auriculaire. Bon, très élégant. Les patients ont tout loisir de lui rendre son amabilité.
Est-ce qu'il y a un autre traitement que celui-ci pour ne pas le prendre?
Surtout, la toxoplasmose n'intervient que dans le sida maladie, c'est-à-dire que quand les gens ont une baisse d'immunité. Donc si les gens veulent se révolter et veulent faire faillite à ce gentil monsieur, ils ont qu'à se dépister, se faire soigner très vite et très tôt, ils font pas de toxoplasmose et ces médicaments, il pourra les empaqueter et puis en faire ce qu'il en veut avec.
Et lui, exactement.
Et en sachant quand même que au jour d'aujourd'hui, pour la toxoplasmose, il y a beaucoup d'antibiotiques qui valent beaucoup moins cher que ça et qui sont disponibles en France et en Europe, dont le fameux Bactrim, dont.
Sincèrement,
c'est plus le buzz pour parler parce que, mais sincèrement, on s'en fiche.
Mais il va se faire lyncher.
J'espère.
Mais une petite augmentation, je m'attendais. Allez, il va le passer à 20 dollars.
C'est malade.
Oui, puis on est plutôt dans la tendance inverse d'essayer d'avoir des génériques ou des traitements pour le VIH qui coûtent moins cher. Ou pas forcément des génériques, mais de faire baisser les prix, et là, c'est la même.
Mais ça, c'est une réalité, en Afrique notamment, c'est assez compliqué d'avoir des médicaments là-bas et des trithérapies, parfois certains en profitent.
Il y a un gros commerce.
Même au niveau des gouvernements, on avait entendu l'histoire à Madagascar, là, où ils avaient trouvé un lot qui leur était destiné, mais en fait, il était pas. Le gouvernement, le ministère de la Santé, l'avait vendu à un autre pays africain, en fait.
Florent, reviens à toi, mon cher Florent. Ça va bien? Tu veux savoir quoi? À part la météo, qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors, avant de poser ma chère question, je vais vous lire une anecdote.
Oui. Alors, attention.
Il y a 2 ans, un ami a appris qu'il était contaminé. Et à l'époque, il avait 19 ans, donc sa famille l'a très très mal pris.
Ouais.
Et tellement mal pris qu'il a décidé de s'en aller et de vivre à Toulouse. Donc c'est super loin.
Donc il habitait dans le coin?
Oui.
Ici. D'accord.
Il n'a plus aucun lien avec sa famille, mais il est très proche avec ses amis. Et alors voilà ma question, c'est est-ce qu'il existe des structures d'accueil qui proposent de l'aide lorsqu'une personne séropositive est rejetée par sa famille?
Non, il n'y a pas de structure spécifique pour les personnes quand il y a un rejet comme ça. Par contre, il y a une structure qui existe pour... Alors, s'il est... Je ne sais pas si c'est un jeune homme homosexuel.
Je ne sais pas. Bon. Il ne m'a rien dit.
Parce qu'il y a une structure qui s'appelle Le Refuge, qui existe et qui est en train de s'installer dans différentes villes, à Paris, à Nice, il va y en avoir un. Au départ, c'est à Montpellier, le premier, je crois. Nous avons aidé, nous, pour justement des jeunes hommes homosexuels qui vivaient avec le VIH, qui avaient été recueillis par cette structure parce qu'ils avaient été rejetés par leur famille, souvent du fait de l'homosexualité, mais aussi du fait du VIH. Mais d'abord, ils reçoivent des personnes homosexuelles. Si lui n'est pas homosexuel, il n'y a pas de structure spécifique pour les personnes vivant avec le VIH. Non, après, il y a des associations comme nous, qui pouvons accompagner, donc à Toulouse, il y a Aide, il y a d'autres structures, d'autres associations, qui peuvent l'accueillir, mais pas pour l'héberger. Et nous, pareil, si quelqu'un vient, on va l'accueillir pour l'accompagner, on pourra l'aider ponctuellement, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas lui offrir, par exemple, ni un logement, ni lui payer durablement un toit, enfin, une chambre d'hôtel ou... Donc non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Donc voilà, mon cher Florent.
Merci.
Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre?
Eh ben, rien du tout. Voilà. À part...
Appelle-le quand même.
Il est où, le jus d'orange?
Appelle-le. Il est à côté, là-bas. L'autre, il est venu faire la météo, le jus d'orange.
Mais il n'a pas l'habitude de servir, Maler. C'est pas lui qui sert.
Non, mais surtout, il ne boit pas de jus d'orange.
Eh, voilà. Tiens, mais ça y est, ça continue. Oh.
C'est ce que je veux dire.
J'ai pas précisé qu'est-ce que...
Oui,
j'ai
oui,
juste
oui.
dit qu'il ne buvait pas de jus d'orange.
Oui. Je vois venir.
Ou avec quelque chose dedans.
Non,
même pas.
Ça y est, l'autre qui s'y met aussi. Tu vas voir tout à l'heure, toi. Merci, Florent.
Merci.
On accueille Shanaz. Salut, Shanaz. Tu vas bien?
Oui, ça va, et vous?
Mais oui. Et tu veux savoir quoi?
J'avais 2 questions à vous poser.
Oui.
J'ai lu les résultats d'un sondage IFOP pour le SIDAction.
Ouais.
Et les résultats sont affolants chez les 15 à 24 ans, qui montrent qu'ils se protègent de moins en moins lors de rapports sexuels.
C'est vrai.
À quoi est due cette banalisation du VIH ?
Bah, ils pensent que c'est une vieille maladie, qu'ils ne sont plus concernés.
La difficulté, c'est ce que disait la princesse tout à l'heure, c'est qu'ils ne se sentent pas concernés, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, mais là, les 15-24 ans, c'est qu'ils pensent que le VIH ne les concerne pas. Donc, souvent, bah, ils ne se protègent pas ou ils n'osent pas proposer le préservatif parce que la peur d'être. Pour les garçons, c'est souvent la peur de ne pas savoir l'utiliser ou de mal l'utiliser. Les filles, c'est des fois la peur de passer pour quelqu'un qui en aurait besoin. Mais je pense que la principale cause, c'est justement de ne pas se sentir concerné par le VIH. Penser que c'est pas pour
pas eux. Pas du tout. Ils mettent plus de capote d'ailleurs. 30%
non,
des
pas. Et aussi, même si la mettent, c'est l'alcool aussi. Hein, qui...
Oui.
Ou si alors, c'est l'abus d'alcool. C'est une génération. C'est cette tranche d'âge-là, c'est affolant. Ça fait peur. C'est que ça, ils peuvent pas s'amuser s'ils sont pas à 4 grammes, quoi. C'est affolant.
Oui, il y a une forte.
Et puis ils vont très vite.
Hein. Ah non, mais c'est incroyable.
Ils vont très vite.
Hein. Incroyable. Donc après, ils comprennent plus rien, ils savent plus rien. Ils ont, même si au départ, ils voulaient peut-être mettre un préservatif, ou ils y arrivent pas, ou ils oublient, ou voilà, quoi. Mais je crois aussi, c'est l'âge où on se sent invincible, on croit que ça arrive qu'aux autres. Et ben non, moi non. Et puis comme tu disais, Hervé. Ce machisme exagéré de dire qu'une fille qui a des préservatifs dans son sac, ben on va la traiter de traînée et de fille facile, alors que c'est une fille qui est responsable et qui est responsable de sa sexualité, justement, qui devrait être un exemple, pas montrer du doigt. Donc, mais ça, c'est pas gagné pour le faire changer, mais c'est les mentalités qui sont encore un peu archaïques de ce collecter-là.
Le problème, c'est que c'est la roulette russe. C'est-à-dire que si on regarde vraiment les chiffres, sur 6000 contaminations par an nouvelles en France, il y en a à peu près 2000 chez les hétérosexuels, enfin, vous et moi. Si on regarde 2000 hétérosexuels, il y a moitié femmes et hommes, donc ça fait 1000 hommes ou 1000 femmes. Et si on regarde dans la tranche des 15 à 24 ans, ça fait à peu près 30%. Donc ça veut dire que par an, dans cette tranche-là, il y a à peu près 300 garçons ou 300 filles qui vont se contaminer. Donc les gens se disent que finalement, bon, 300, c'est pas grand-chose, donc je prends le risque. Le problème, c'est que c'est une roulette amoureuse, c'est-à-dire que personne ne peut savoir à l'avance s'il prend un risque ou pas, et même si le risque de contamination est relativement faible par voie hétérosexuelle, ça veut dire qu'on peut avoir 100 rapports à risque et ne rien avoir, et un seul rapport à risque et même une fellation ou un cunnilingus ou ce que vous voulez, et se faire contaminer. C'est ça le problème du sida, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer quand on prend un risque. Et même si ce risque est infime, on risque de le payer ensuite toute sa vie. C'est ça le plus gros problème. Et la banalisation, c'est parce que effectivement, ce que disait Malher, parce que ça fait 7 ans qu'il écoute et 7 ans qu'il devient
plus que ça.
Ouais.
Ah mais je suis docteur. Ouais.
Voilà, exactement. Ouais. C'est que c'est une maladie qui fait plus peur à personne parce qu'elle se banalise, parce qu'elle se soigne et parce que globalement, on ne meurt plus du SIDA. On meurt des à côté du SIDA, mais on ne meurt plus du SIDA. Et donc tout ça fait voilà. Mais comme l'a dit votre collègue tout à l'heure, être séropositif, vous voyez, le rejet, la stigmatisation, le déménagement. Le rejet par sa famille. Ouais. Une fois qu'on est contaminé, ça peut devenir dramatique quand même.
Voilà. Mais en plus, tous ces chiffres, c'est.
C'est des chiffres.
Oui, mais les chiffres, c'est ce qu'on connaît, les 6000 contaminations, mais il y en a le double ou le triple des gens qui ne le savent pas. Et ça, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il y a plein de bombes à retardement qui sont là, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur statut sérologique, et c'est ça le danger. Donc, dans le doute, il faut se protéger, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les gens. On ne peut pas dire, oui, bah, je la connais. Ben non, justement, on ne connaît pas les gens, et il faut être prudent. Et puis, pour toutes les autres maladies sexuellement transmissibles, et je reviens toujours sur mon hépatite B, qui est très dangereuse aussi.
Non, mais vous avez entièrement raison. Il y a tellement de maladies dont on ne peut pas se protéger. Là, on a la chance de pouvoir se protéger contre le sida, contre l'hépatite B, l'hépatite C, l'herpès, le chlamydia, la syphilis, le gonocoque. Encore une fois, une jeune fille de votre âge qui attrape une infection sexuellement transmissible, elle peut soit en mourir, soit être stérile. C'est pas rien de ne pas se protéger. Il ne faut pas se polariser que sur le sida. Il faut se polariser sur toutes les infections sexuellement transmissibles dont le sida fait partie et qui sont potentiellement plus ou moins graves. Ça peut aller de rien du tout. Ça coule, ça gratte.
Et ça brûle aussi. Pourquoi tu me regardes?
Non, mais parce que
ça
peut aller jusqu'à la mort. Donc c'est ça, pour un soir où on a un peu bu, on a oublié un préservatif et on a pris un risque. Voilà, c'est tout. Et si on prend ce risque, il faut consulter.
Ouais, mais Lorraine ne boit pas.
Hein, c'est bien.
Je voudrais juste apporter un témoignage par rapport à la question de Shanaz. J'ai reçu il y a quelques jours à l'association une dame, alors qui est un peu plus âgée que Shanaz, puisque elle a un peu plus de 30 ans, mais qui a découvert sa séropositivité à cet âge-là, entre 15 et 24, je crois qu'elle avait 18 ou 19 ans, où elle a été contaminée, disant elle-même, par son petit ami de l'époque. Et elle dit que quand elle a appris ça, elle a tout quitté. C'est-à-dire qu'elle a arrêté ses études. Mmh. Elle me dit, je pensais que j'allais faire des études, avoir une vie. Et du coup, elle s'est complètement repliée sur elle. Elle n'a pas été rejetée par ses parents, puisque ses parents... Mais elle me dit, ma vie s'est arrêtée le jour où j'ai eu ça. Et donc, elle avait...
On se déprime. Ok, on reste avec nous, les amis. Tu as encore une question, oui. Lorraine? Ouais, tu restes avec nous.
Jungle Fight sur Radio Monaco, avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Oui, les amis, toujours en direct depuis Radio Monaco, la 7e saison de Jungle Fight, s'il vous plaît. Ils sont tous là, Jungle Fight, toute l'équipe, et bien sûr, Radio Monaco. Mon cher Bruno Taillant, c'est l'association AIDS.
Aide
ou AIDS? Moi non, je dis AIDS. Ah bon, on dit AIDS? Moi je
dis un S à la SIDA fin. Mais non, mais AIDS, c'est SIDA en anglais.
Ah, c'est SIDA? Bon, alors l'association AIDS, merci mon cher, qui est une sommité, bien sûr, merci, chez AIDS.
7 ans. Hein.
Je voudrais parler à Bruno Taillant.
Un petit peu
Bruno Taillant. Ouais. 30% des dentistes refusent de soigner les séropositifs. Est-ce normal, d'après toi, mon cher Bruno? Est-ce que tu veux répéter ce qu'on a dit en antenne?
Non, moi, on n'a rien dit, t'as mal compris, Malheur.
Oui, c'est ça.
Je dis qu'ils ont tort parce que, déjà, ça traduit la mauvaise information. Ils ont, au contraire, il vaut mieux soigner un séropositif qui se traite, et le savoir, puisque, à la limite, ce patient-là n'est pas contaminant, puisqu'il est contrôlé par le traitement, que tout un chacun dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne sait pas s'il est séropositif ou séronégatif. Et je te rappelle, mais tu es trop jeune pour le savoir,
j'étais gentil.
Il y a une dizaine d'années, quand les séropositifs avaient des soins ou étaient hospitalisés, ils avaient une pastille rouge à côté de leur nom. Dans les hôpitaux, quand les patients étaient hospitalisés, quand ils étaient à risque de contamination, ils avaient une pastille rouge. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, cette pastille rouge était totalement débile, parce que quand tu prends en charge un patient d'où qu'il vienne, tu dois considérer qu'il est à risque et te protéger. Mmh. Donc, si le dentiste ne se protège pas, s'il ne met pas des gants, d'abord, c'est pas un bon dentiste, ça veut dire qu'il fait prendre des risques éventuellement à tous ses patients. Ouais. Et ensuite, il doit considérer que tous les patients qu'il soigne sont à risque. Et, en l'occurrence, un séropositif traité, contrôlé par un traitement, ne fait prendre de risque à personne, ni à lui-même, ni aux praticiens qui le soignent.
Mais surtout, c'est ça qui est débile. Alors, il ne doit plus traiter personne, parce qu'il y a tellement de gens, comme on disait avant, qui sont séropositifs et qui l'ignorent.
Autant l'hépatite B, Altesse.
Non, mais qui l'ignorent, je veux dire. Il peut avoir des gens qui sont dans son fauteuil en train de se faire soigner et qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Et il peut très bien... Mais c'est débile, déjà. Il faut mettre des gants.
Un bon dentiste doit se protéger, doit nettoyer son matériel, stériliser son matériel, non, comme si tout patient était à risque.
Parce qu'il y a beaucoup de séropositifs qui n'ont peut-être pas aussi les moyens de leur payer les prix exorbitants des dentistes.
Qui sont très chers, c'est vrai.
Oui. Ouais. Et justement, les prix, des fois, augmentent. Parce que les dentistes ne disent pas, mais nous avons eu, nous, le témoignage de personnes qui, quand ils annonçaient leur séropositivité, les prix augmentaient.
Ah d'accord, c'est comme les assurances, c'est une prime de risque.
Oui, c'est ça.
C'est bien, voilà. Non mais c'est débile.
Tout à fait.
Mais c'est la réalité.
Mais quand même.
Je me demande si, quand justement on n'est pas concerné par le VIH, si on ne devrait pas exiger à tous les dentistes de dire, est-ce que votre matériel est stérilisé? Est-ce que le matériel que vous utilisez, il est stérile?
Ils vont te dire oui.
Mon dentiste, il arrive, il a son...
Montrez-moi la machine à stériliser.
Il a son plateau, il l'ouvre devant moi et tout le matériel est stérilisé.
La plupart, à mon avis, le plateau, il est stérilisé le matin, et puis si tu passes en fin d'après-midi, c'est plus stérile.
Mais tu sais, voilà.
On prend des risques chez le dentiste, enfin c'est
mais les patients prennent des risques aussi, tu sais pas si ton dentiste il est séropositif ou pas. On a décrit des contaminations de patients par des chirurgiens, par des dentistes, par tout ce que tu veux. Chacun doit se protéger. Un dentiste qui te met les mains dans la bouche sans gants, dans la bouche, c'est un dentiste, tu peux parler d'autre chose. C'est pas un bon dentiste.
Moi je me lève, je m'en vais.
Parce qu'il peut te contaminer. Oh. Mais le proctologue c'est pareil, s'il met pas des gants, c'est pas un bon proctologue, malheur.
Ou un préservatif à chaque
fois. Alors si tu t'es fait gruger, c'était pas un proctologue.
Le dentiste,
j'allais qu'il allait démarrer là-dessus.
Ben non, c'est ça.
Oh là. Lorraine, s'il te plaît, n'écoute pas ce qu'ils... Oui. C'est pas bien ce qu'ils disent là.
Mais c'est pas Lorraine.
C'est Lorraine. Elle a changé de nom.
Elle a changé de prénom il y a 10 minutes.
C'est Lorraine.
C'est Lorraine. Deuxième question, Lorraine.
Si cette banalisation est due au traitement de plus en plus efficace, en quoi consiste-t-il réellement?
On a toujours dit, il faut faire la différence entre les anciens séropositifs, c'est-à-dire les gens qui ont été contaminés dans les années 80, qui malheureusement ont eu de multiples traitements avec de multiples toxicités, qui à l'heure actuelle malheureusement ont beaucoup d'effets secondaires de ces traitements qui n'étaient pas faciles à prendre. Quelqu'un qui découvre sa séropositivité en 2015, le traitement c'est quasiment rien, c'est ce qu'on appelle les STR, les Single Treatment Regimen, et c'est un comprimé par jour, et avec peu d'effets secondaires et peu de contraintes. Donc voilà, à l'heure actuelle, un séropositif qui se fait dépister, qui se fait prendre en charge précocement, qui se fait soigner, qui respecte un certain nombre de précautions dont on a déjà parlé sur le tabac, l'alcool, la diététique, l'activité physique, il a une espérance de vie tout à fait normale. Donc c'est pas le problème médical, le séropositif. Le problème, c'est le problème humain, social, professionnel, tout ce que vous voulez, mais c'est pas un problème médical à l'heure actuelle.
Voilà ma petite Lorraine, on te remercie beaucoup.
Merci à vous.
On accueille Vincent Stabot. Salut Vincent.
Bonjour.
T'es déjà passé ici?
Oui, je suis déjà venu, ouais, effectivement.
Vincent Stabot, coach de Marine Cilic.
Il a de nouveau fait la même erreur.
Qu'est-ce qu'il fait, lui?
Non,
mais il est un peu vieux.
Ouais,
oui,
tu as été coach
Dans une autre vie, je suis agent, donc manager. Ouais,
tu es agent. Mais
je
ne
voudrais pas voler, parce qu'en plus, son coach est une star, donc je voudrais pas voler.
Est-ce que tu peux nous dire?
Mais oui, bien sûr, c'est Goran Ivanisevic, qui est un ancien numéro 2 mondial.
D'accord.
Donc voilà, je n'ai pas piqué le job de Goran.
Non, mais mon cher Vincent, je sais que tu apprécies beaucoup Marine, qui est un joueur adorable.
Ouais.
Tu as organisé une journée spéciale au tournoi de tennis de Monte Carlo en faveur de Faites Monaco.
Oui.
Et ça, je voudrais qu'on t'applaudisse quand même.
Merci.
C'est bien, mon petit. Est-ce que tu te souviens les joueurs qui ont participé? C'était au mois d'avril.
C'est bien des premières fois que je me mets devant, parce que normalement nous on est derrière. Mais non, mais c'est vrai, c'est Marine qu'il faut applaudir au travers, parce que
d'accord,
malheureusement lui, il pouvait pas être là. Il part demain en Chine pour sa tournée asiatique. Mais c'est d'abord le joueur qui décide ça, et c'est avec son cœur qu'il a décidé. On avait visité les installations. Hervé nous avait fait visiter. Et, on trouvait que le projet était vraiment terrible. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les joueurs ont, et ça, je crois que c'est grâce aussi au fait que Marine est très, très appréciée sur le circuit. Je pense que c'est une des rares fois quand on organise un événement caritatif dans le milieu du tennis où il y a personne qui nous a posé un lapin, quoi.
Mais ça, les joueurs sont venus spontanément.
Ouais, non, c'est vraiment d'ailleurs
des grands noms. Oui, oui. En plus,
c'était
très sympa parce que Djokovic est arrivé en faisant une scène de jalousie et c'était très bien préparé. C'était
ouais,
vraiment.
Oui, ils étaient tous là. Enfin, il y a Novak, il y a Rafa Nadal qui était là. Il y avait Raonic, mais bien sûr, tous ceux aussi qui vivent ici à Monaco. Il y avait Grégor Dimitrov,
Andreas Seppi.
Mais c'était dans une ambiance géniale. On s'était associés. Donc on a aidé deux associations. On a été aidé, Fighters Monaco et on a aidé Special Olympics Monaco. Et ce qui a été extraordinaire aussi, et j'ai été très très touché par un mot de la présidente qui m'a dit on a réussi à faire passer un message à Monaco que c'était pas une tare d'être différent, parce que les jeunes athlètes qui représentent d'ailleurs Monaco aux Special Olympics, qui sont des Jeux Olympiques pour personnes, moi j'aime bien les appeler différentes, et qui ont d'ailleurs gagné des médailles à Los Angeles ici cet été pour Monaco, et ils sont venus et ils ont montré qu'ils jouaient très très bien en tennis. Et quand je dis très très bien, c'est pas pour leur faire des compliments, ils jouent vraiment bien. Et ça a été une journée formidable.
Qui a rapporté quand même beaucoup d'argent. La princesse va recevoir un chèque de 27 600 euros.
27 000, bravo. Merci encore, Vincent.
Et je pense que merci vraiment à Marine, qui est lui vraiment l'instigateur de ça. Merci Vincent, et puis aussi merci Cécilia qui est là derrière et qui est là aussi, mais qui était dans le circuit.
Est-ce que je peux encore dire une petite chose?
Non.
Ou bien mon temps de parole est déjà...
Mais non, non, vas-y.
Bon, mais tout d'abord, c'est un énorme honneur de vous rencontrer, votre Altesse, franchement. Et j'ai toujours été un grand fan. Et je me suis dit que c'était très, très impoli d'arriver les mains vides. Et même si physiquement j'ai les mains vides, je voudrais vous offrir pour votre association un petit cadeau supplémentaire. Parce que lorsqu'on était au tournoi de Barcelone, on a eu la chance d'être invité dans les installations du Football Club Barça et de rencontrer quelques stars. Je sais que vous avez une vente aux enchères. Et donc, à la prochaine fois que je reviendrai, c'est-à-dire dans une semaine, j'apporterai à l'association deux maillots dédicacé par Lionel Messi, qui à mon avis vont permettre de rapporter un peu plus d'argent supplémentaire. Et la deuxième petite surprise, c'est qu'on ne veut pas faire du répétitif, donc on ne va pas refaire un Marine and Friends l'année prochaine, mais on va réaider les deux associations en organisant un dîner de gala en marge
du tournoi,
et dont l'argent sera resplité en deux pour Fighters et pour Special Olympics.
Un tonnerre d'applaudissements pour Vincent Stabot.
Merci. Avec grand plaisir.
Merci mon cher Stabot, merci beaucoup. Restez avec nous les amis, Jungle Fight en direct de Radio Monaco, il est 18h.
Princesse Stéphanie.
Oui, bien sûr, les amis, c'est Radio Monaco, toujours qui accueille Jungle Fight, la première émission de radio de lutte contre le sida, présentée par la princesse Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, un accueil pour Stéphanie, s'il vous plaît. Avec nous, le docteur Bruno Taillon, Hervé Sbag, Franck Herman et bien sûr les élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco.
On les a pas entendus.
Bah oui, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là?
Ouais.
Oula, ça va déjà mieux là. Et donc, je voulais m'adresser à Franck Herman. Les autotests pour le VIH sont en vente depuis le 15. On peut savoir rapidement si l'on est contaminé, mon cher Franck. Oui. Dans l'ensemble, ils sont assez bien accueillis par la profession aussi, mais... présente un petit problème quand même.
Ben, un problème, c'est le prix, effectivement, on l'évoquait il y a quelques instants, 28 euros prix conseillé. Alors, la fourchette peut aller entre 25 et 30 euros. C'est vrai que ça peut sembler excessif, d'autant que dans une boîte, il n'y a qu'un seul test. C'est une association française, hein, élus locaux contre le sida, qui a lancé un peu la polémique il y a quelques jours maintenant. Ces tests ont été annoncés avec grand renfort médiatique par la ministre française de la Santé. Petit appareil donc qui offre aux personnes ayant couru un risque de dépister la présence du VIH avec une simple goutte de sang, efficace à presque 100% et donc trop inabordable, ce qui pourrait poser problème chez les personnes les plus vulnérables. Alors à terme, on assure au ministère que le système devrait devenir gratuit. En attendant, rendez-vous dans 6 mois pour un premier bilan, promettant également les organismes de surveillance chargés du suivi du dossier.
Voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, Bruno, hein, Hervé. Bon, des réticences dans le milieu aussi, chez des professionnels.
C'est... des réticences, oui. Ça a été évoqué dans le sens où justement ça n'est pas encadré ni accompagné. Les personnes sont seules chez elles et donc il faut quand même qu'il y ait des conditions. Il faut justement être dans un endroit calme, le faire dans des conditions spécifiques. Il faut avoir un minuteur. Il y a 15 minutes de délai, donc il ne faut pas dépasser 20 minutes parce que c'est plus bon. Donc c'est quand même... il faut vraiment bien lire la notice.
Donc, on voit apparaître un trait, on est séronégatif, et si le deuxième trait arrive,
il est séropositif, mais il faut le reconfirmer par un test sanguin, puisque de toute façon, c'est une indication.
La 15 minutes d'enfer, là.
ça fait à peu près 5 minutes de manipulation, parce qu'il faut bien préparer le matériel, tout ce que l'on fait, nous, pour les TROD, où nous sommes formés pour à la fois accompagner, mais aussi faire le fait de piquer, c'est le même petit appareil. Là, on se pique tout seul, il faut recueillir 2 gouttes. La deuxième goutte, on la prend, on la met dans un support où il y a le réactif.
C'est ça.
Il faut bien qu'il y ait 3 déclics. Donc, c'est quand même des choses qui sont...
bon, je sais pas si
assez
précise
et minutieuse, et il faut bien que la personne, elle ne soit justement pas dans un sentiment d'angoisse pour pas se planter, quoi. Donc, attention. C'est à manipuler avec beaucoup de précautions, à s'assurer que si jamais il y a un résultat qui n'est pas celui que l'on espérait, de pouvoir parler à quelqu'un. Il y a le numéro vert de SIDA Info Service qui est là, ou tout de suite prendre contact avec un médecin. Mais souvent,
tout à fait.
Quand est-ce que ça va être fait?
Et de là à rembourser les autotests, je pense qu'on prend encore le problème à l'envers. Parce que rembourser les autotests, c'est rembourser la prise de risque. À ce moment-là, si on légifère là-dessus, il n'y a qu'à rembourser les préservatifs. Parce que quand un accident d'exposition au risque viral, quelqu'un qui a une conduite à risque, qui vient consulter à l'hôpital ou dans un service d'urgence, c'est 1 000 euros. Hein. La trithérapie pour un mois, plus les tests sanguins, plus tout ça. Donc, je sais pas, il y a une réflexion à avoir. Alors, je sais pas s'il faut rembourser ou pas les préservatifs, mais en tout cas, il faut travailler en amont. Il faut pas travailler après, une fois que le risque est pris. Et rembourser les autotests, ça devient n'importe quoi.
Comme beaucoup de choses. Les préservatifs devraient être, pratiquement offerts, parce que les maisons de préservatifs, parce que
il y a un lobby. Enfin, c'est comme on a hurlé quand il y a eu ces fameuses Terrybox chez les toxicomanes, mais le VIH a quasiment été éradiqué chez les toxicomanes. Les toxicomanes, c'est 1% des contaminations. C'est quasiment plus rien. Mais ça fait hurler les bonnes gens quand on a dit ils peuvent rentrer dans les pharmacies acheter leurs seringues. Mais c'était la meilleure des choses à faire et c'est très bien. Là, peut-être que les jeunes, effectivement, il faudrait qu'ils puissent rentrer et avoir des préserves ça leur éviterait de faire des autotests à tire-larigot. Parce que si c'est remboursé, ils vont faire des autotests tous les 15 jours. Hein.
Et d'aller prendre la pilule dans le main.
Mais bien sûr.
Tous les week-ends.
Et ben voilà. Donc c'est débile.
Ces tests sont quand même pour des populations spécifiques. C'est des populations qui échappent vraiment au système traditionnel, qui est d'aller dans le centre de dépistage ou d'aller dans un lieu où on peut faire le TROD. Donc que ce soit payant, c'est pas pour toute la population ces autotests.
On accueille Sylvie du lycée technique hôtelier. Salut Sylvie, tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors, est-ce qu'il existe un test de dépistage pour le papillomavirus?
Boom, de dépistage, boom. Non.
Non.
Effectivement, le papillomavirus, c'est-à-dire quand on va chez son gynécologue et qu'on fait un frottis au niveau vaginal ou un frottis au niveau anal, donc c'est son proctologue ou son gynécologue, et à ce moment-là, si on découvre des anomalies au niveau de la muqueuse, c'est-à-dire des phénomènes inflammatoires, à ce moment-là, on recherche le papillomavirus sur le prélèvement. Mais en tout cas, il n'y a aucun test sanguin, d'où, chez des jeunes filles de votre âge et d'autres plus âgées, d'aller chez le gynéco, au moins tous les deux ans.
Tous les deux ans?
Oui,
une fois par an, c'est mieux le frottis, normalement, c'est une fois par an.
Ouais, les recommandations actuelles en l'absence de risque, c'est tous les deux ans. Mais c'est des recommandations. Après, chacun voit en fonction de ses pratiques, en fonction de ses prises de risque, en fonction de tout ça. Mais pour une jeune femme en couple et avec une activité sexuelle, je dirais...
mouvementée.
De couple. Un frottis tous les deux ans, c'est les recommandations actuelles.
Mais la consultation chez le gynécologue, c'est beaucoup plus régulièrement.
Ça dépend. Maintenant, les mammos fonctionnent là, c'est tous les deux ans. On a surmédicalisé.
T'es sûr, Bruno, ce que tu dis là?
Je suis sûr et certain, oui.
Attention.
On a surmédicalisé beaucoup de choses. À l'heure actuelle, encore une fois, après, il y a des situations différentes. Mais au jour d'aujourd'hui, une jeune femme qui n'a pas de problème gynécologique et qui vit en couple stable, c'est un contrôle gynécologique tous les deux ans. Et chez les séropos, c'est tous les ans. Hein.
Oui.
C'est autre chose. Mais ça, c'est des conditions particulières.
Qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors, j'ai entendu dire que la syphilis était une maladie qui avait disparu et qu'il y a de nouveau beaucoup de cas. Qu'est-ce que c'est et est-ce que ça se soigne?
Dans le monde, à l'heure actuelle, il y a 3 millions de contaminations par le VIH et il y a 200 millions d'infections sexuellement transmissibles. Et ça, c'est sous-évalué. Il y en a sûrement beaucoup plus. Et la syphilis est sûrement en tête de toutes ces infections sexuellement transmissibles. La syphilis, c'est quelque chose d'hyper contagieux. Quelqu'un qui a le sida, le risque, il est de l'ordre de 1% ou un peu plus bas en fonction du type de rapport. La syphilis, c'est 60%. S'il y a quelqu'un qui a la syphilis, vous contamine quasiment à coup sûr. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de syphilis et on en voit régulièrement. Après, ça se soigne très bien, c'est vrai. Ça se soigne par un dérivé de la pénicilline.
Si on la repère.
Si on la repère.
Sinon, c'est des problèmes neurologiques. Même ça,
parce que c'est la grande, c'est la grande muette et c'est la grande manipulatrice. C'est-à-dire la syphilis, ça peut donner tout et n'importe quoi. Ça va du chancre d'inoculation, c'est-à-dire lors du rapport, selon l'endroit où on a eu le rapport, il y a un chancre qui est douloureux et qui fait mal, mais ça dure très peu de temps et ensuite ça disparaît. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, vous ne plaignez plus de rien. Et pendant ce temps-là, vous êtes contaminant. C'est pour ça que quand on a eu un rapport à risque, faire un autotest ou faire tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais aller voir son médecin, voir les conditions du risque et faire un bilan plus complet, un test de syphilis, éventuellement un prélèvement vaginal ou un prélèvement urétral, ou enfin un tas de choses. Il n'y a pas que le sida, il y a tout le reste. Mais la syphilis fait partie de ces maladies, si elles sont diagnostiquées, qui se traitent. À tel point que les prochaines TROD vont combiner VIH et syphilis. Parce que la syphilis est un problème encore plus important que le sida au jour d'aujourd'hui.
On l'aura en 2016.
Ouais,
en 2016. Voilà, merci Sylvie. Un tout petit peu de pub tout de suite dans Jungle Fight. On revient dans quelques instants, les amis. À tout de suite.
Jungle Fight sur Radio Monaco.
La lutte contre le sida, ça passe aussi par les nouvelles technologies, Stéphanie. Est-ce que vous êtes souvent sur votre tablette, smartphone? Est-ce que vous avez un compte Facebook?
Pas du tout.
Rien du tout de tout ça?
Non.
Pourquoi ça? Comment ça se fait?
Elle va être
tranquille.
Mais il y a des gens qui en ont fait un pour moi, mais c'est pas le mien, hein, je dis ouais. Tout le monde.
Quand on est dans
la presse et tout, bon, voilà. C'est bien, ça les amuse. Non, j'adore pas du tout là-dessus, parce que, voilà, si on a envie de parler à ses amis, on les appelle.
Ouais.
On en parle, et puis, étant déjà un personnage public, je vois pas pourquoi je parlerais de ma vie privée, de mes moments. Je comprends pas ce concept. Il y a beaucoup de gens qui sont style des stars, qui sont là, Instagram et autres, Facebook, qui publient des trucs privés. Et après, d'un autre côté, ils attaquent les journaux, qui veulent les paparazzis, qui volent des photos. Mais hein, c'est complètement contradictoire. Voilà.
Donc,
je comprends pas ce besoin, même pour les jeunes, d'être aimés ou appréciés par rapport à ce qu'ils mettent sur ces trucs de Facebook. Parce que oui, la sincérité, peut-être quelqu'un va dire ouais, j'ai liké ton truc, mais en fait ils en pensent pas un mot. Mais donc voilà, je crois que les rapports humains et la communication directe, c'est tellement plus important que tous ces trucs virtuels, voilà.
Merci.
Et toi, Stéphanie, tu as une page Facebook?
Pas du tout.
Tout le monde me demande, mais pourquoi tu as la page Facebook? Mais je lui dis, je suis sur un ordinateur 10 heures par jour. Après, on fait de l'antenne pendant 2 heures, on est sur ordinateur. Je le vois pas arrivant chez moi encore.
Tu as un site qui est pas mal.
Ah, il est très bien, mon site.
Ou qu'il est malheur.
Avec des belles photos.
Oui.
Ou qu'il est malheur, ouais.
Oui. Et
il y a Radio Monaco pour le moment.
et même de l'émission aussi.
Ouais, il y a toutes les photos, oui. Bien sûr.
Où on te voit avec la princesse.
Ah ouais, magnifique. On est splendides tous les deux. Hein?
J'imagine. Non, mais d'où on écoute la question, en fait.
Alors, la question, ça y est, vous avez répondu, Stéphanie, c'est bien.
Ah, voilà.
D'accord. Donc, pas de Facebook, rien du tout, tranquille.
Rien du tout, tranquille.
Rien du tout, tout ça. Salut,
par
Marco.
Contre, j'ai le Facebook de Baby Népal, si vous voulez aller voir.
Ah, Baby Népal, les deux éléphants.
Et de Fighters Monaco aussi.
Et de évidemment, ça.
Ouais, ils vont bien?
Ouais. Oui, elles vont bien.
Elles vont bien.
Merci.
D'accord. Elles t'embrassent. Marco.
Salut.
Qu'est-ce que tu veux savoir?
J'aimerais faire un point sur de nombreuses fausses croyances qui reviennent en boucle quand on parle du sida avec nos collègues.
Ah.
Je pense que ça peut être intéressant pour tous de répondre à ces idées reçues. Premièrement, on peut voir si quelqu'un est contaminé en l'observant attentivement.
Ça va pas, non. Qu'est-ce que tu racontes, là?
Ben voilà, Malher a répondu.
Mais non, mais t'es pas bien. Une autre question,
c'est bien ça, c'est bien le truc des idées fausses.
Non, il a raison.
Ceci dit, à l'origine de la stigmatisation et du rejet, c'est que les patients qui sont séropositifs depuis très très longtemps ont malheureusement les stigmatisations de la séropositivité, ce qu'on appelle l'hypodystrophie, avec ses visages émaciés, ses veines apparentes, des modifications des graisses. Donc sincèrement, la réponse de Malher est tout à fait juste pour quelqu'un qui se contaminerait maintenant, mais quand on a un peu d'expérience sur quelqu'un qui a été contaminé depuis très longtemps, on peut le reconnaître en le regardant, ça c'est vrai.
Oui, mais avec quelqu'un qui a de l'expérience, sinon on voit juste une personne amaigrie qui est malade, qui peut avoir un cancer
mais
ou quelque chose d'autre.
Je pense que ça pose de gros problèmes parce que justement, notamment dans l'enseignement ou dans les métiers publics, il y a beaucoup de gens qui voudraient continuer à travailler, qui malheureusement ne travaillent plus à cause justement de leurs modifications corporelles, leurs modifications physiques et ont honte d'être dans une classe, par exemple, parce que les élèves ne sont pas toujours tendres. Et ça pose des problèmes, ces modifications corporelles quand même. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les nouveaux traitements dont on a parlé tout à l'heure, ça ne se voit moins ou ça ne devrait plus se voir. Donc globalement, c'est non.
C'est non.
Est-ce qu'on peut guérir du sida?
Non.
Guérir? Non.
Non.
Le seul patient au monde à l'heure actuelle guéri s'appelle le patient Berlin. C'est ce qu'on appelle une guérison fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune trace du bilan. Tous les autres guérisons, entre guillemets, ne sont pas des guérisons. Et donc, pour l'instant, une personne sur 30 millions de séropositifs. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne guérit pas du sida.
On peut attraper le sida en embrassant quelqu'un sur la bouche ou en buvant dans le verre d'un autre.
Et voilà. Et c'est des vieilles questions qu'il a trouvées depuis 30 ans.
C'est bien, c'est bien.
Oui, non, mais il a raison. Il a raison.
Il y a plein de gens qui croient ça encore, malheureusement.
Exactement.
Et ils ont raison.
Ça y est, il y a Bruno qui s'énerve. Ah ben, c'est l'heure, de toute façon. C'est l'heure. C'est question pour un champion.
Coupez le micro.
Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Continue,
Marco.
Les écoute pas. Continue.
Il n'y a pas de risque pendant les préliminaires.
Ah ben, ça dépend ce que tu fais.
Et voilà. Mais Malher,
il est bon maintenant.
Malher, il est top. Hein.
En fait, on pensait qu'il dormait pendant toutes les émissions. Ouais, mais
c'est
il a écouté
ça,
quand
c'est
même.
Ça. Non, mais je suis
concentré.
Je suis un spécialiste. À force de les écouter, toutes ces sommités, tu comprends. Est-ce qu'il y a un risque pendant les préliminaires?
Si c'est des bisous, non. Si c'est des préliminaires.
Je ne vois pas de bisous.
Mais la tendresse.
La tendresse.
Ouais, mais ça existe, la tendresse.
Mais non.
Et non, mais dès qu'il y a, par exemple, une fellation, par exemple, si ça correspond à un préliminaire, il y a un risque. Donc ça dépend des préliminaires.
Mais un risque minime.
C'est 200 fois moins qu'un rapport sexuel. Maintenant, si tu veux prendre le risque, c'est très faible. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est la roulette amoureuse.
Il aimerait bien, mais
200 fois moins. Tu sais, ils vendent des trucs. Là, tu calcules avant d'avoir ton rapport sexuel, tu calcules ton risque.
Finalement, il y a des bonnes questions, Marco. Hein.
Oui.
T'as vu?
Oui, mais c'est des questions de bon sens. Et il a raison. Toute pratique sexuelle doit être considérée à risque. Ouais. Après, le risque, il est plus ou moins important en fonction de la pratique. C'est-à-dire qu'il va de 0,04% à 2%. Par exemple, mais ça veut rien dire. 0,04%, c'est quand même 0,04%.
S'il y a un contact avec les muqueuses ou qu'il y a du liquide sexuel, les sécrétions vaginales.
Tu vas te calmer, oui.
Eh bien, il y a un risque potentiel.
Ouais,
c'est pour parler un petit peu de préliminaire.
Voilà. Alors, par contre, là, il y a un risque derrière, là, c'est qu'il tombe dessus.
C'est le fond.
Marco, une autre question?
La pilule protège du virus.
Est-ce que la pilule contraceptive protège du virus?
Oui.
Tu vas rentrer dans ta chambre tout de suite, toi. Non, mais il a raison, en plus, de poser ces questions.
Ah, il y a deux choses qui protègent du virus. C'est le traitement, c'est-à-dire la trithérapie.
Et
le préservatif. Voilà. Ouais. Après, il n'y a rien d'autre qui protège du virus. Donc, il faut se faire dépister, il faut se faire traiter, et il faut avoir des rapports protégés. Si on fait tout ça, il n'y a pas de risque.
Le moustique transmet le virus.
Ah non,
il ne veut pas. Il transmet
la
pas.
La dingue, oui.
Ouais, la dingue, ouais.
La maladie, hein, Malher.
Oui, je sais.
La dingue et le palud, oui.
Oui.
Mais pas le VIH.
Non. Le VIH non plus.
Non, c'est des bonnes questions parce oui, que c'est des que questions qu'on se posait il y a 30 ans, qui perduraient il y a 20 ans, il y a 10 ans et qui perdurent toujours.
Et donc, qui
c'est,
sont
les, c'est des bonnes questions. Et dont la réponse a été apportée depuis 20 ans. Depuis 30 ans, on a la réponse à
et
toutes ces questions.
Pas,
formellement. Voilà.
Ils nous écoutent pas.
Ils nous écoutent pas à la radio. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout, Marco?
Oui.
Merci, mon cher Marco. Bon, salut. Merci. Michael.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, Michael.
Alors, j'ai deux questions.
Oui.
La première, c'est le préservatif suffit-il pour être protégé de tout IST?
Bah, pratiquement, oui. S'il est bien
sauf
mis,
si
oui.
Craque.
Ah oui, ça craque, voilà. Mais normalement, si c'est bien mis, ça. Ouais, faut en mettre deux. Oh, puis soyons fous, on en met trois.
Mais ce soir, c'est le délire au micro. N'écoutez
mais
pas.
Mais non, mais c'est normal.
Un seul préservatif.
Est-ce que ça protège
C'est mieux que rien. Le 100%, ça n'existe pas, en particulier pour l'herpès notamment. Après, la plupart des contaminations qui ont été observées sous préservatif, comme l'a dit notre présidente, Son Altesse, sont dues à des mauvaises utilisations, soit des lubrifiants non adaptés, c'est-à-dire des lubrifiants gras, soit des ruptures de préservatif, soit un préservatif mal utilisé ou mal mis. Voilà, voilà. Mais globalement, de toute façon, on n'a pas d'autre solution que le préservatif. Donc le préservatif protège. Maintenant, il faut toujours rester vigilant après des rapports qu'on peut considérer à risque en fonction de certains symptômes. De toute façon, ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, quand on a des multipartenaires, avec ou sans préservatif, on devrait se faire dépister de façon annuelle. Une fois par an, on se fait dépister. Voilà.
Et voilà, prochain rendez-vous dans
Et quand on est jeune, justement, parce qu'on ne considère pas forcément avoir des multipartenaires, mais comme dans une année, ils peuvent avoir plusieurs aventures, il est important de se faire dépister une fois par an.
Voilà.
Ah oui, ils en ont plusieurs.
Oui, mais ils ne sont pas dans un multipartenariat, puisque c'est une histoire suivie d'une autre histoire.
C'est
pas toujours.
C'est... Pas toujours.
Comment ça?
Il est un peu fleur bleue, Hervé, mais bon.
Ouais, oui.
Ouais.
Il va nous raconter ses vacances.
Tout. Mais il ne raconte surtout pas les tiennes, Malherbe.
Non, ah non, sûrement pas. Non, non, je vais rester encore.
En vacances encore?
Non, non, je pars plus.
Ah
non, non, s'il vous plaît. Michael, s'il te plaît, est-ce que tu as une autre question?
Oui. Généralement, lorsqu'on parle de gynécologue, c'est relié au problème de femme. Mais est-ce que l'homme peut se rendre chez un gynécologue pour se faire dépister de tout IST?
Ouais, c'est une bonne question, ça.
Normalement, bon, c'est une bonne question, mais il y a quelques années, quand on a essayé de mettre les médecins généralistes et les gynécologues au centre de l'épidémie VIH, parce qu'il faut bien voir que ceux qui voient des sujets jeunes et des patients plus ou moins à risque, c'est les généralistes et les gynécologues. Et je pense que les généralistes, ça a été un accueil très mitigé, et les gynécologues, ça a été un accueil très très froid. C'est-à-dire que les gynécologues, bon, peut-être que tu vas avoir des appels, tu te débrouilleras,
oui.
Mais les gynécologues se sentent très très peu concernés par les infections sexuellement transmissibles et par le sida. Donc, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux avoir un bon contact avec son médecin généraliste. Son médecin généraliste est beaucoup plus à même de discuter, je pense, ouvertement. Et je vois pas ce qu'un homme irait faire chez un gynécologue, chez un andrologue éventuellement. Les urologues, éventuellement, font ça chez les hommes, hein, pour les problèmes de stérilité ou les problèmes d'andropause ou de troubles de l'érection ou de problèmes d'infection. Mais le gynécologue, globalement, c'est une spécialité très féminine.
Mais c'est fou qu'elles ne soient pas intéressées par les IST, les gynécologues, c'est quand même leur domaine.
Je pense qu'on est dans...
Oui, tout à fait, oui, c'est, on a plein dedans.
Ouais, ouais,
ça,
ouais.
Il traite pas l'acné, je veux dire, il traite...
Ouais.
Bah oui.
Après, c'est comme tout, faut pas généraliser. Hein, oui, il y a des gynécologues qui se sentent concernés. Après, il y a des gynécologues peut-être un peu plus âgés qui sont un peu plus dans autre chose. Voilà. Maintenant, la nouvelle génération est peut-être plus intéressée par ça, mais il y a des gynécologues très bien et qui s'intéressent beaucoup à ça et qui prennent très bien en charge les patients. Hein. Faut pas généraliser. Mais c'est vrai que, encore une fois, médecins généralistes et gynécologues, c'est par leur aide qu'on arrivera à dépister un maximum de gens. Parce que les gens, si on leur propose le dépistage, le plus souvent, ils refusent pas. Mais il faut leur proposer. Voilà.
Mais il faut vraiment retenir que par rapport à tes questions, comme l'a dit le docteur, s'il y a un moindre doute, ça pique, ça brûle, ça...
Ça gratte.
Ouais, ouais.
Ça a l'air. Ça peut être quelque chose.
Mais pourquoi vous avez...
Mais
ils ont fini, oui.
Et voir un médecin généraliste qui, lui, pourra répondre.
Je me souviens, lors de la dernière émission, Son Altesse, ici présente, nous a dit...
Il parle bien,
un homme qui se protège est bien vu. Or, une femme est vue comme prostituée. Et j'aimerais insister auprès de tous vos auditrices et auditeurs qu'il faudrait arrêter ce genre de préjudice.
Merci beaucoup.
Oh là là, bravo, bravo. Michael. Bravo. Oh, Michael.
Merci à
Merci
vous.
Merci, Michael. Tiens, je voudrais une question à Stéphanie. Est-ce que vous avez un voyage, une mission en préparation quelque part?
Oui, mission secrète.
Oui, voilà. Vous allez partir où? D'ailleurs, on va appeler quelqu'un à Haïti tout à l'heure.
Tout à fait.
Quelqu'un
à Haïti. Mais là, le problème, c'est que.
Répondez, Stéphanie.
Les pays où nous intervenons, il y a le Burundi, où la situation politique.
Ah oui, c'est pas le moment d'y aller.
Oui, d'ailleurs, nous avons des
Il y a beaucoup de pays où on ne peut plus aller, là.
Qui sont dans des difficultés. Haïti, c'est pareil. Actuellement, ils ont bientôt les élections. Enfin, Edner pourra nous en parler, mais c'est tendu aussi. Donc, il y a pas mal de pays où nous ne pouvons pas.
Madagascar, c'est pas non plus.
C'est pas très calme en ce moment non plus.
Là-bas non plus, donc.
Donc, il nous reste l'île Maurice.
L'île de Ré.
Il nous reste l'île Maurice.
L'île de Ré.
New York.
New York.
L'Afrique du Sud aussi.
Hop, là, faut faire vite.
Oui.
Donc, nous travaillons dans des pays, effectivement, enfin, nos partenaires travaillent dans des pays où les situations sont dramatiques pour le pays et d'autant plus pour les personnes vivant avec le VIH, puisque au Burundi, par exemple, il y en a qui ont des problèmes, justement, pour avoir les traitements du fait des conflits.
J'ai une autre question pour Stéphanie. Est-ce qu'il y a des gens connus qui vous contactent de temps en temps, Stéphanie, pour s'engager auprès de vous?
Non, pas du tout.
Personne. Ah, non, et pas de compte Facebook. Ben voilà, personne peut.
Oui, mais Fighted en a.
Et je suis sûr. Et vous ne lisez pas vos mails en plus, il paraît, non?
Je lis ceux de Madame Barca.
Ah ben voilà, Madame Barca ici présente à côté.
Je lis ceux qui m'intéressent, voilà.
Bon ben, c'est pour ça.
Et tu n'auras pas mon adresse mail donc.
Bon, elle l'aurait
pas. Je croyais que c'est qu'il vous avait écrit et que vous n'avez
pas du tout. J'écris pas, je suis un mec pudique, moi. Non, mais attention.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Oui, la Princesse Stéphanie qui est avec nous ce soir, bien sûr, pour un Jungle Fight absolument exceptionnel, en direct des studios de Radio Monaco, avec toute l'équipe de Fight Heads, bien sûr. J'ai une question pour Franck Herman, une sommité dans le monde du journalisme.
Ben voilà, ce soir, il n'y a que des sommités.
Il n'y a que des sommités ce soir. Oui. Les pays de la région de l'océan Indien.
Il a découvert Indien. Le mot, s'il vous plaît.
Il est arrivé à la lettre S.
Oui. Et après sommité, il y a...
C'était avant.
Eh ben voilà. Les pays de cette région, les pays de l'océan Indien ont organisé une grande table ronde pour trouver des solutions à la propagation de l'épidémie du sida.
Oui.
Ça s'est tenu à Madagascar, Jérémy.
Oui. Antananarivo, effectivement, lundi à mercredi. Alors, ils ont invité tous leurs voisins pour se pencher sur ce problème de la prise en charge des personnes infectées par le VIH. Mayotte, La Réunion, les Comores, Rodrigue, les Seychelles et Maurice. Alors, au total, une quarantaine d'intervenants qui ont répondu à l'appel de l'association mauricienne PILS, que vous connaissez très bien.
Très bien.
Tu les connais,
effectivement.
Ouais.
Et de
nous
aide.
Nicolas.
Oui. Une initiative soutenue aussi par l'ONU SIDA. Vous allez peut-être pouvoir nous en parler. Altesse, il a décidé de la création d'ici 2 ans d'une plateforme pour soutenir des actions ciblées sur les personnes le plus à risque dans la région, les homosexuels, les travailleurs du sexe, les toxicomanes, parce que ça existe encore là-bas, les grandes contaminations sur ces catégories. Une nouveauté qui n'est pas encore suffisante, estiment néanmoins les congressistes. L'un des objectifs est également d'interpeller les pays des participants afin de tracer des plans nationaux contre le sida. C'est vrai qu'on en parlait juste avant la pause, avant le journal.
Merci mon cher Franck, bravo, bravo, merci beaucoup.
De toute façon, les recommandations de l'OMS 2015 vont sortir là dans les semaines qui viennent et ça va devenir très simple le sida. Il faut dépister et traiter tout le monde. Voilà. Et si on dépiste et si on traite tout le monde, il n'y aura plus d'épidémie d'ici 10 ans. Et pour ça, il faut rajouter 10 milliards de dollars et c'est réglé.
Ouais, mais 10 milliards de dollars, c'est rien.
C'est rien, mais c'est
quand tu vois les prix des missiles,
ouais.
Deux fois plus cher.
Voilà. Et voilà.
Un avion de chasse, ça coûte bien plus cher. Hein.
Là, faut s'adresser à l'Égypte. Ils achètent tout en ce moment. Faut tout leur vendre là-bas. Ok, nous accueillons Célia. Oui. Salut Célia. On a 2 Miss Monaco, là. Célia et Laura.
Bonsoir.
Que deux bombes, hein. Attention, hein. Arrêtez de m'appeler les filles la nuit. Je peux pas. Si je pense, moi. Célia, ça va?
Ils
appellent des plus jeunes.
Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qu'il y a?
Ils appellent des plus jeunes.
Ben, je sais bien, oui. Célia, qu'est-ce que tu veux savoir? On les écoute pas.
Non, ben voilà, moi je viens aujourd'hui parler justement, puisque moi et Laura, nous sommes deux candidates pour Miss Monaco. Donc c'est la première édition, c'est la première fois que ça se passe sur Monaco.
C'est quand?
Oui. Justement, la date était fixée au 15, mais ça n'a pas pu se faire par rapport à divers événements qui s'est passé justement dans la principauté.
D'accord.
Donc ça a été repoussé, donc on attend encore les dates officielles pour pouvoir poursuivre
Miss Monaco.
Voilà, ouais. Le concours. Et donc, vu qu'on est anciennes, toutes les deux, des anges gardiens, on en a profité justement pour pouvoir faire aussi un peu de
prévention.
De prévention, justement, vu que bon, c'est aussi le. On peut aussi pouvoir faire de la prévention, justement, parler de différentes œuvres de charité, tout comme ça. Donc, justement, on en profite.
C'est dans le cadre du concours.
Aussi,
dans
oui.
Le cadre du concours,
oui, oui,
on vous
c'est de... une des étapes importantes aussi, forcément, puisque. On peut représenter quelque chose.
Et donc, vous faites le choix de représenter la prévention avec, au travers des anges gardiens.
Oui.
D'accord. Alors, donc, aussi bien le VIH que l'alcool, les autres prises de risque.
Oui, oui, tout ce que les anges gardiens intègrent, justement. Donc,
Et comment c'est pris par ceux qui organisent le concours? Parce que quand on parle de Miss, souvent, on ne parle pas tellement de prévention.
Pas vraiment, non.
Si vous parlez de préservatif en tant que candidate Miss, est-ce qu'on ne vous dit pas c'est... Vous pouvez pas.
Non, pas du tout. Au contraire, on nous encourage, voilà,
à en parler,
à en parler, voilà, à aider.
Oui, parce qu'il faut qu'elles aient un truc, on leur dit qu'est-ce qu'elles aimaient faire, machin.
Oui,
ça fait bien de faire du caritatif, et bien de choisir la prévention et le VIH, c'est génial.
C'est super, oui.
Bravo, parce que avant tout, même si une Miss, ça doit avoir des critères de beauté, précis, on va dire, entre guillemets. Après, c'est pas que ça, en fait. C'est aussi l'altruisme et la solidarité avec les personnes qui nous entourent.
C'est bien.
Donc, et bon, c'est vrai qu'on en a aussi profité du fait qu'on est des anciennes, des anges gardiens. Et que...
Et Célia, t'as écouté ce qu'on a dit jusque maintenant,
oui,
les jeunes de 15-24 ans ne mettent plus de capote. C'est vrai, ça, tu as constaté ça ou...
Dans mon entourage, j'ai déjà entendu parler,
Vous parlez jamais, du sida?
Si. Moi, je sais que c'est vrai que j'ai des amis autour de moi qui ont quand même peur, justement, de cette maladie. C'est normal.
Ouais.
C'est quand même quelque chose d'important. Et justement, cette peur fait que, au moins, elles ont ce petit truc de se dire, faut que je me protège.
Exactement.
Et est-ce qu'elles n'en parlent pas plus facilement avec vous, qui êtes des anges gardiens? Donc, vous êtes quand même ouvert à ça. Et est-ce que vous provoquez pas, des fois, le débat?
C'est vrai que de mon côté, je sais que des fois, on me pose des questions. Justement, quand je dis que je participe à telle chose ou telle chose en rapport donc avec Fight Aids.
Mmh. Et puis la princesse.
Et voilà.
Quand tu dois dire que tu es avec la princesse, on doit te poser des questions.
Oui.
Et du coup, tu peux parler
de prévention. Oui, c'est ça, tout à fait. De là, on me demande ce qu'on raconte et tout. Donc, les gens ont plus de facilité ensuite à nous demander à nous... s'ils ont des questions particulières,
c'est plus facile pour eux. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire depuis qu'on a les anges avec nous et tous les jeunes du lycée technique, on a formé toute une génération et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important, c'est eux qui donnent les informations parce que c'est beaucoup plus facile un jeune d'aller parler à un autre jeune et ils ont les bonnes réponses maintenant puisqu'ils reviennent et tout ça que de venir parler à des vieux croutons comme nous.
Oui, ils vont sentir un peu
bête. C'est l'image.
Faut pas dire oui. Quand la princesse parle de vieux croutons, faut pas dire.
Non, mais parce que nous, on a forcément l'image des parents, de l'autorité, c'est notre génération. Ouais. Je vois, j'en ai une de 17 ans, c'est bon. Hein.
Puis même à la base, même les émissions de radio comme ça, c'est assez compliqué, on va dire, pour les jeunes d'écouter ça. Enfin, c'est un peu long quand ça arrête pas de parler, mais c'est vrai que, sachant qu'il y a des jeunes... Non, mais je vous le dis clairement.
Fais attention à ce que tu dis.
Non, mais voilà, c'est vrai qu'après, quand il y a des jeunes et que les personnes autour de nous savent qu'on va passer à la radio, ils veulent écouter. Donc, c'est vrai que là, toute l'émission, ils vont l'écouter et ils vont apprendre des choses.
J'espère. Ouais.
Donc,
ça, c'est bien.
Et après, ils donnent des infos aux autres.
Oui, tout à fait.
Et c'est ça qui est bien.
Puis c'est vrai qu'on est quand même bien informés par rapport à ce qu'on a vécu avec les anges gardiens. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose...
Les tests in the city, les déploiements.
Si vous êtes candidate, on peut vous donner les préservatifs pour que vous en distribuiez.
Bien sûr, papa.
D'accord, très bien.
On a créé le mini Fight Aids. Elles sont là.
C'est ça.
Bon, vous nous direz, c'est quand Miss Monaco?
C'est gaffe, Hervé, ils vont prendre ta place.
C'est bientôt, ça va, non?
C'est vrai que déjà, on a fait les photos officielles pour Miss Monaco.
Donc, il y a combien de filles à Monaco qui se présentent?
Pas tellement. Pas tellement, mais là c'est vrai que ça s'est réparti en deux parties le shooting. Donc moi je sais que je l'ai fait aux Zelos Beach à Beaulieu.
La première édition.
Moi je l'ai fait là samedi dernier, on était au Baoli Beach à Cannes.
pour faire les photos justement.
Si vous recherchez un journaliste pour couvrir l'opération, vous avez mal à l'air.
Alors voilà, je dis tiens, il va, mais il va le faire.
Mon Dieu. Est-ce que... C'est ça. Est-ce encore faut-il qu'il accepte, hein.
Ouais, bien sûr, c'est
pas ça.
Ma mère n'est pas journaliste, mais fait des photos.
Je ne suis pas. Ouais, je fais des photos. Tout seul, oui, des fois, ça part tout seul. Ouais, des photos, des selfies, tout.
Quelle est votre réaction quand vous apprenez qu'un copain ou une copine n'a pas mis de, ou ne met pas de préservatif, ou ne, n'a pas les bonnes attitudes?
On s'inquiète quand même. Oui. Parce que justement, on connaît les gens, oui, on les connaît de vue, on parle avec, on les connaît au final ni d'Adam ni d'Ève. On ne sait pas leur antécédent, on ne sait pas ce qu'ils ont pu faire avant nous.
Mais
donc c'est vrai que.
Dans tes copains et tes copines, il y en a peut-être bien qui prennent des risques, non?
Oui.
Et là, qu'est-ce que tu. Non, rien.
Une fois que c'est fait, c'est trop tard, on ne peut plus rien dire. On ne peut pas lui dire, t'aurais dû le faire, puisque. Voilà. Ça, oui, on le dit. Mais au final, ça changera à l'acte qu'il y a eu. Donc de là, après, on leur dit d'essayer d'aller voir, justement, de faire des prises de sang, de faire ce qu'il faut, quoi, pour être au plus rapidement possible au courant.
Ok, merci Célia et merci Laura. Hein.
Oh, je vous au courant. Future Miss Monaco.
Ouais, tout à fait. Voilà. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Merci, les filles. Merci beaucoup. On a Edner Boussico. Il est là avec nous. Edner.
Oui, bonjour, Malher.
Edner Boussico. Responsable, attends, oui, je te présente. Responsable de Housing Works en Haïti. C'est une association qui s'occupe des séropositifs là-bas, mais aussi des SDF comme à New York. Est-ce que vous vous rappelez, on avait reçu Charles King qui était venu à la maison de vie de Carpentras au mois de juin. Charles King qui s'occupe de la Housing Works à New York. De tout le monde. Un mec fabuleux. Ça va, Edner?
Bonjour,
tu vas bien?
Bonjour aussi à la princesse, son Altesse Stéphanie, qui vraiment nous appuie. Qui nous appuie très très sincèrement en Haïti et ça fait plaisir de participer. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Radio Monaco.
Ouais.
C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin.
Bon, tu vois, tu ne seras pas venu pour les 5 ans, mais tu es quand même à Monaco, Edner, là, par la radio.
Le partenariat fonctionne bien, Edner, avec Fightes Monaco. Ça marche?
Exactement, ça fonctionne très bien. Et là, on est à notre troisième année de coopération et d'appui.
Oui.
Et là, c'est l'occasion pour nous de remercier, bien sûr, Fightes Monaco par le biais de la princesse qui a toujours eu Haïti dans son cœur et dans son esprit, dans sa pensée, lorsque on a été très sérieusement frappé après le séisme du 12 janvier, où près de 300 000 personnes étaient pratiquement victimes. Et là, depuis, les personnes qui vivent avec le VIH-SIDA ont été la priorité, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour Housing Works, qui travaille en Haïti depuis plus de 5 ans maintenant.
Mmh.
Donc, pour nous, la coopération a appuyé vraiment à renforcer les capacités des associations de personnes vivant avec le VIH. Et aussi, c'est de renforcer les capacités pour la prévention parmi les personnes qui vivent avec le VIH et également pour les LGBT, qui sont les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels ici, qui, avec un taux de séroprévalence de 18,1%, donc ce qui est vraiment très élevé. Donc, avec ce support, on apporte aussi l'appui psychosocial pour que les gens puissent se retrouver et travailler pour lutter contre la stigmatisation, la discrimination et le problème des droits humains pour le respect de l'appui dans les milieux où ces gens évoluent. Donc, c'est vraiment un appui vraiment considérable.
Ouais.
Et nous remercions encore une fois la coopération Monégasque, la principauté, et l'appui de Fightes Monaco qui vient sur le terrain, qui visite nos activités, et qui
se
retrouve très présent.
Par rapport justement, quand tu as parlé du séisme, c'est au départ le prince Albert II, le souverain, qui a demandé justement à ce que l'on se mobilise tous autour du soutien que la principauté pouvait apporter, et où il y a eu plus de 1 million de dollars de récoltés sur Monaco. Non, ce que je voulais juste te poser comme question, c'était, est-ce que tu peux nous dire en deux mots un petit peu comment vivent les personnes vivant avec le VIH en Haïti?
Bon, pour le moment, la situation a un petit peu évolué parce qu'il y a beaucoup d'appui de partenaires bilatéraux et multilatéraux qui arrivent. Et pour le moment, on peut dire qu'il y a un petit aller mieux, comme on dit en français, mais c'est pas l'idéal pour le moment. Donc, pour l'instant, on travaille avec ces gens, on essaie de les trouver des moyens de subsistance parce que ces gens, pour la plupart, n'ont pas toujours accès à un emploi.
Tu as suffisamment de médicaments?
Oui, on a suffisamment de médicaments, mais pas toutes les molécules qu'on peut trouver dans les pays industrialisés.
Oui.
Ici, les gens développent des résistances par rapport à certaines molécules de médicaments antirétroviraux. Donc, on ne trouve pas toujours les bons médicaments. Mais les médicaments sont pour la plupart disponibles.
Ouais.
Mais pas les meilleurs que l'on trouve partout dans les pays industrialisés.
La population la plus touchée là-bas, en Haïti, à Port-au-Prince?
C'est les jeunes gays et lesbiennes, comme je l'ai dit tantôt.
Ouais.
C'est les femmes.
Les femmes?
Parce qu'il y a... il y a une féminisation de l'épidémie en Haïti à cause des problèmes liés à la pauvreté, des problèmes liés au manque d'éducation, à la non-scolarisation, à l'analphabétisme. Donc, c'est un peu ça, les populations les plus touchées dues à ces questions.
Et les perspectives maintenant, Edner, qu'est-ce que tu souhaites?
Bon, je souhaiterais vraiment que la coopération monégasque, la Princesse et le Fightest Monaco continuent de nous tenir dans leur agenda, dans leur pensée, dans leur esprit, parce que nous avons beaucoup de choses à réaliser en termes de perspectives sur le terrain pour continuer à appuyer les personnes qui vivent avec le VIH-SIDA, qui font face toujours à des problèmes de stigma, de discrimination, des problèmes liés au non-respect des droits humains. Et là, on salue l'appui de Fightest Monaco au développement de nos pays qui s'appelle Martius pour la collecte des droits de données de cas de violation sur les personnes qui vivent avec le VIH et sur les personnes bisexuelles, transsexuelles et homosexuelles. Donc, ceci nous aide énormément.
Hervé est attendu là-bas. Hervé, d'ailleurs,
oui, mais justement, est-ce que la situation actuelle n'est pas très bonne compte tenu des élections qui arrivent, hein? C'est ça, Edner?
En effet, la conjoncture électorale qui prévaut pour le moment fait que la situation n'est pas trop bonne pour mener cette activité, surtout dans les coins reculés du pays. Donc, on attend que la situation se restabilise un petit peu après les élections. On veut dire, on espère à la fin du mois de décembre, parce que le premier tour des élections présidentielles est prévu au cours du mois d'octobre et ça continue jusqu'au mois de décembre, après Noël. Donc, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et en Haïti, à chaque fois qu'il y a des élections, c'est toujours des situations un petit peu difficiles par rapport à la stabilité politique. Mais on espère que ça va continuer à se renforcer davantage.
Ok. En tout cas, moi, je voulais juste saluer quand même le travail qui est fait par Housing Works, donc Edner et Housing Works en Haïti et les autres associations partenaires comme la FEBS et j'en oublie bien d'autres qui font un travail sur le terrain qui est vraiment très efficace. Donc bravo
Edner. Et en plus, c'est un bon communicant. Hein. Là, ça y va. Edner, il est excellent.
Merci Edner.
Merci Malher. Merci Malher. Et merci à Hervé. Et salutations à toute l'équipe de Fightest Monaco. Salutations spéciales à la princesse que j'espère un jour, avant de mourir, j'aurai l'occasion de rencontrer. Donc, pour lui remercier spécialement pour tout ce qu'elle fait et toute l'appui qu'elle nous donne, sincèrement, avec Housing Works,
notre
partenaire au niveau local.
Je vous en prie, c'est avec plaisir. Merci.
Salut Edner Boussico. Bravo,
cher ami. À bientôt, au revoir.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Alors attention, quelques minutes encore, nous sommes toujours en direct sur Radio Monaco pour un Jungle Fight absolument exceptionnel. J'ai une question à Bruno Taillon avant qu'il s'endorme. Cher Bruno, il paraît que le virus du sida perd lentement en virulence, est-ce que c'est vrai? Sa capacité à infecter une personne est moindre.
Dans quelle situation? Au fil des années?
Oui, au fil des années. À force de prendre des trithérapies et tout ça, il est moins contaminant.
Ça aussi, ça reste extrêmement discutable, puisqu'on vient de découvrir récemment une souche extrêmement virulente.
Et ben voilà.
Donc, effectivement, il semble que le virus, au fur et à mesure des traitements, perde ce qu'on appelle son fitness, c'est-à-dire son
capacité,
pouvoir, sa capacité replicative et sa capacité à infecter. Mais ceci dit, ça, c'est dans des conditions de traitement correctement appliqué. Après, quand on prend mal son traitement, c'est-à-dire quand on a une absorbance très faible aux trithérapies, malheureusement, on peut favoriser des virus plus agressifs et plus résistants.
Alors, on a parlé
de ça. Il mute en permanence, ce virus.
Mais le virus n'aime pas muter, il est feignant. Quand il mute, c'est parce qu'on l'oblige à muter, sinon il n'a pas tendance à muter, le virus.
Il est feignant.
C'est un échec pour le virus de muter. C'est-à-dire que lui, il préfère être tranquille et qu'on ne l'embête pas. D'où l'intérêt, d'où l'intérêt de prendre des trithérapies de façon extrêmement régulière, de façon à justement éviter ces mutations que naturellement le virus n'aime pas.
Alors on a parlé du Truvada tout à l'heure, qui est un cachet préventif, donc l'effet...
Arrêtez de parler de ce truc.
Attends, Stéphanie, s'il vous plaît. Est-ce qu'il existe un traitement de longue durée? Parce que l'effet du Truvada, c'est quoi? C'est une journée, deux jours?
Le Truvada, il faut le prendre juste avant le rapport à risque, mais il va être... on va rapidement avoir du Truvada longue durée, donc puisque le laboratoire, en l'occurrence, Gilead travaille là-dessus, et puis il va surtout sortir l'année prochaine le cabotegravir dont parlait Michel Perrozzo des laboratoires Vivelscare quand on l'a reçu il n'y a pas si longtemps que ça, qui sera un traitement préventif à longue durée d'action puisque ça sera une injection tous les 3 mois. Mais il faut arrêter de parler de tout ça. La prévention, c'est la prévention du sida, mais il y a tout le reste. Donc tous ces traitements-là n'ont strictement pas d'intérêt dans tout ce qui nous préoccupe.
Tout à fait.
Parce qu'on parle de sida, mais c'est une émission sur les infections sexuellement transmissibles, sur les conduites à risque, et ces traitements-là n'ont finalement que très peu d'intérêt.
Ouais. Le préservatif.
Le préservatif. Stéphanie, ça fait 30 ans que l'épidémie est là. Est-ce que de temps en temps vous doutez? Est-ce que vous êtes toujours aussi motivé face à cette inertie ambiante? On en parlait des gouvernements. La prévention.
Ah, moi, je suis toujours aussi motivé. Pas de problème. Hein.
C'est reparti pour 30 ans, là.
Ben, j'espère moins, j'espère qu'on va enfin y arriver à ce que les gens comprennent. Mais, mais c'est vrai que quelquefois, ça m'étonne, ça me sidère que on rabâche, on répète les mêmes choses, comme tout à l'heure avec les questions de base, quoi, et qu'il y a toujours des gens qui sont au courant de rien, quoi. Donc, nous, on baisse pas les bras, on continue.
Non.
On fait bien ce qu'on fait, et on continue, et on est là.
On a la motivation.
Et voilà, mais bon, après, c'est sûr que si les pouvoirs publics et les grandes organisations mondiales ne prennent pas les choses en main et sortent ces 10 milliards pour dépister et traiter tout le monde, c'est sûr que nous, à notre petit niveau, on va pas y arriver.
Oui.
Et c'est incroyable qu'on sait maintenant, le doc l'a dit, qu'on peut éradiquer, c'est-à-dire que l'épidémie ne se propage plus. C'est-à-dire que les traitements maintenant, les gens sous traitement ne sont plus contaminants.
On stabilise.
Donc c'est déjà énorme de pouvoir arrêter d'avoir des nouvelles contaminations. Ça n'empêchera pas qu'il faudra s'occuper des gens qui sont encore contaminés et séropositifs. Mais on arrive à ça, et quand on voit la somme avec ce que des pays, des gouvernements jettent ou dépensent pour rien, ou pour se faire la guerre, ou pour des bêtises, 10 milliards de dollars de nos jours, c'est rien pour sauver la planète du VIH. Donc je crois que ça, c'est le plus important.
Tout à fait. À côté de toi, mon cher Hervé, Zaza. Et qui est Zaza?
Bonjour Zaza.
Bonjour,
Zaza.
Mais qui est Zaza?
Mais qui est Zaza?
Mais qui est-elle?
Très très rapidement, les enfants, s'il vous plaît.
Oui, mais Zaza est là puisqu'elle nous aide
c'est
régulièrement.
C'est le chef ange. C'est le chef ange. Je suis Mimi Mathis, tu veux.
C'est Dieu. C'est le chef des anges gardiens. Non, Zaza sera particulièrement avec nous et les anges gardiens pour la journée du Test in the City qui aura lieu le 25 novembre.
Tout à fait.
D'accord.
Où les anges gardiens interviendront.
À Monaco.
Oui, à Monaco. Tu sais, on sait toujours pas l'endroit, mais ce sera le 25 novembre à Monaco.
Très bien.
Et les anges gardiens iront à l'encontre du public, on va dire, pour les informer, à la rencontre, ouais, pour les informer de ce Test in the City, de ce TROD, et donc de les inciter à venir se faire dépister.
Et nous allons cette fois-ci former Zaza, puisqu'elle va rejoindre l'équipe des TRODeurs, c'est-à-dire l'équipe des personnes qui font les tests.
Ouais. Pas les Globe TRODeurs.
Depuis le temps qu'elle nous aide dans la prévention.
Bien, ça. Tu fais pas la fête la veille, attention, ne tremble pas, non, Zaza, mais... attention.
Tu vas aller te faire piquer par Zaza?
Oui, voilà, Malherbe, je t'attends.
Bon, ben voilà, je me suis fait piquer rendu. L'autre fois, vous vous souvenez là-haut.
Oui, mais tu peux revenir, tu reviens,
j'ai entendu une fois, en
fois tous les ans.
Eh ben voilà, c'est...
deux fois en Thaïlande depuis.
Par contre, je pense que je tremblerai.
Si tu piques
devant cette sommité.
Sommité.
C'est le mot du jour, sommité.
Bravo, elle l'a placé pour Malherbe, bravo.
Merci beaucoup, les amis.
Nous en parlerons en octobre parce que nous avons un calendrier très chargé pour le mois de novembre.
Prochain Juggle Fight, fin octobre maintenant, on fait comme ça, c'est bon?
C'est en octobre et là, nous déclinerons notre calendrier très chargé.
Mais il parle comme Stéphane Bern, mon cher.
C'est une sommité.
Mais oui, bien sûr.
Pas.
Jungle Fight est fini. Merci à tout le monde. Merci Jungle Fight. Merci Stéphanie.
Merci,
bravo. On applaudit tout le monde. Il est 19h sur Radio Monaco. Et tout de suite, les toutes dernières infos avec Camille Chapuis. Bonsoir Camille.
Bonsoir Malherbe.